que vous faites ça avec un ordinateur classique, ça va typiquement vous prendre des siècles. Alors qu'avec un ordinateur quantique, vous pourriez faire ça en quelques minutes ou quelques heures. L'idée de l'ordinateur quantique, quelque part, c'est un niveau fondamental, c'est juste dire on veut construire un bout de matière dont on contrôle parfaitement chacun des atomes. On joue un peu au dieu, quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur des approches où on sent bien qu'il va y avoir encore quelques années d'ingénierie, etc. Mais les progrès sont rapides.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts ? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Après des études de mathématiques appliquées à l'IX et un doctorat en physique quantique à Normale Sup, il valide ses travaux de recherche à l'INRIA avant d'intégrer Alice et Bob, l'une des startups les plus prometteuses du monde dans le domaine de la physique quantique, et ce, en tant que Chief of Theory. Salut Jérémy, comment vas-tu ?
Ça va très bien, et vous ?
Très bien, merci.
Bah écoute, super, je suis hyper content de t'accueillir. Là, t'es chef de la théorie, mais je crois qu'il y a un mois et demi, deux mois, t'étais CEO par intérim. La boîte, c'est ça ?
C'est ça. Enfin, j'étais les deux en même temps.
Voilà, les deux en même temps. Bon, donc t'es bien placé pour nous parler d'Alice et Bob. Normalement, tu sais tout ce qui se passe en interne, tu comprends tout. T'es le meilleur pour ça. Peut-être pas, parce que vous êtes tous à égalité, faut pas mettre de compétition. Autrement, Théo va râler, qui est CEO de la boîte et cofondateur. Mais t'es prêt ?
Je suis prêt, oui.
Paul, t'en as un peu parlé, on parle de physique quantique. Moi, la physique quantique... Je vais pas dire j'y comprends rien, mais j'y comprends rien. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est, quels sont les principes, comment tu définirais la physique quantique ?
Ça commence fort.
Ça commence fort.
C'est pas une question facile.
La plus difficile.
Je vais pas donner un cours de physique quantique, j'en serais incapable. En deux mots, c'est les bonnes lois de la physique qui régissent le monde de l'infiniment petit. Donc par exemple, là, nous, on n'est pas régis par les lois de la physique quantique, donc c'est pour ça que c'est assez dur à palper pour nous, ce sont des objets, en grosso modo, on est trop gros, on est des objets macroscopiques, c'est pour ça qu'on n'est pas régi par les lois de la mécanique quantique. On peut sentir un peu pourquoi les lois de la physique ne sont pas forcément les mêmes selon l'objet qu'on est. Par exemple, si vous regardez un moustique, il peut se poser sur l'eau, et comme ça il glisse sur l'eau, parce que pour lui, les forces de tension superficielle de l'eau sont suffisantes à avoir son poids, et nous, par contre, on ne peut pas marcher sur l'eau, à part Jésus. Et donc là, les lois de la physique quantique, c'est ça l'idée, c'est que si on était un atome ou un photon, la bonne description des lois de la physique qui vraiment décrivent notre évolution, c'est une autre théorie. Ça a été développé à peu près au début du XXe siècle. À l'époque, les physiciens pensaient qu'ils avaient à peu près compris la physique, que les lois qu'ils avaient à l'époque de la mécanique classique étaient suffisantes pour tout expliquer. Il subsistait un ou deux phénomènes qu'on n'arrivait pas à expliquer, comme par exemple le rayonnement d'un corps noir. Le rayonnement d'un corps noir, c'est le fait que c'est un corps qui, quand il est chaud, émet de la lumière. Et il y avait une théorie qui permettait d'expliquer le lien entre la température et la fréquence du rayonnement qui était émis. Et les lois de la physique ne permettaient pas vraiment de comprendre ce qui se passait dans l'ultraviolet, ils appelaient ça la catastrophe de l'ultraviolet, et d'autres effets un peu comme ça. Donc c'est pour ça, première moitié du XXe siècle, les physiciens se sont penchés, ils ont commencé à comprendre qu'en fait il fallait quantifier l'énergie, que pour les échelles les plus petites, l'énergie était quantifiée, donc ça donnait naissance à une théorie qui s'appelle la mécanique quantique. C'est une théorie qui a été assez rapidement bien formalisée, c'est-à-dire ils ont mis ça en équation, ils se sont aperçus qu'avec ces équations-là, ils arrivaient à expliquer les nouveaux effets qui étaient incompris, comme l'effet photoélectrique qui avait eu le prix Nobel à Einstein, par exemple. Et par contre, l'interprétation philosophique à donner à ces équations, c'est-à-dire à la compréhension de ce formalisme mathématique, a été beaucoup plus difficile. Et encore aujourd'hui, on est tous d'accord. C'est-à-dire, la mécanique quantique n'a jamais été mise en défaut. C'est-à-dire, on n'a jamais réussi à faire une expérience d'un système quantique où vraiment le formalisme ne permet pas de l'expliquer. Et pourtant, on a toujours du mal à comprendre un petit peu ce que c'est.
Ok. Donc, pour toi, la physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit, des mécanismes.
C'est la théorie physique. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est les équations qui permettent de prédire de manière correcte le comportement des systèmes. Infiniment petit, et sur les échelles les plus basses.
Et donc,
de
moi,
la matière.
Quand tu me parles de physique quantique, je pense automatiquement à ordinateur quantique. Quel est le lien entre les deux et qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique finalement ?
Ouais, c'est une bonne question.
Un ordinateur quantique. Hein. Le compte, c'est que toutes les questions très compliquées.
Un ordinateur quantique, c'est un ordinateur d'abord, donc c'est une machine à calculer. Et quantique, ça fait référence au fait que ces composants sont des systèmes quantiques, se comportent selon les lois de la mécanique quantique. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Une fois qu'on a mis les équations sur la mécanique quantique, on s'est aperçu que ça donnait lieu à des phénomènes dits purement quantiques, comme le principe de superposition ou d'intrication. Et donc l'idée d'un ordinateur quantique, c'est réussir à construire un ordinateur qui se comporte selon les lois de la mécanique quantique. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est parce que si on a une telle machine, on peut exécuter des algorithmes quantiques. Et donc un algorithme quantique, c'est un algorithme qui a fondamentalement besoin des propriétés de la mécanique quantique pour fonctionner. Par exemple, donc j'ai parlé du principe de superposition. C'est l'idée que si on a un système quantique qui peut être dans deux états, qui a deux états distincts. Donc par exemple, imaginons qu'on ait une voiture quantique, elle a deux états, elle peut être bleue ou rouge. En mécanique quantique, c'est acceptable qu'elle soit dans un état de superposition, c'est-à-dire elle est quelque part à la fois bleue et rouge. Et donc pourquoi est-ce que c'est important que l'ordinateur quantique puisse avoir ce genre de propriété? C'est par exemple une étape typique, la première étape d'un algorithme quantique, c'est je vais mettre l'ordinateur dans la superposition de tous les états possibles de ses composants. Et puis ensuite, je vais exécuter mon algorithme. Donc c'est pour ça que le système doit se comporter vraiment de manière quantique.
Qu'est-ce que tu entends par la superposition de tous les éléments de l'ordinateur?
De tous les états de ses composants. Par exemple, un ordinateur classique... À la fin de la journée, on dit toujours oui, c'est que des 0 et des 1, il est composé de transistors, c'est des interrupteurs. Voilà, et chaque bit de l'ordinateur classique est dans l'état 0 ou dans l'état 1. Et ensuite, exécuter un algorithme, c'est juste flipper les 0 en 1, etc., éventuellement de manière conditionnelle. Pour un ordinateur quantique, il y a l'analogue, il y a les quantum bits ou qubits. Ouais. Et donc, quand je dis on commence par mettre l'ordinateur dans l'état de superposition de tous les états possibles, c'est qu'on va mettre. Tous les bits dans les états de superposition 0 plus 1.
Et pour qu'on fasse la distinction, donc qu'on comprenne bien, nous, quand on parle d'ordinateur, on va dire de manière mainstream, on s'imagine justement notre unité centrale avec notre écran, etc. Pour le moment, un ordinateur quantique se limite à une machine de calcul, c'est bien ça?
Exactement, c'est une machine de calcul. C'est un peu... Alors c'est sûr que c'est extrêmement primitif, c'est-à-dire que je pense que dans les années 50, quand on a commencé à développer l'informatique classique, les gens n'imaginaient pas avoir des iPhones entre les mains, etc. Et puis l'essor de tout ce qu'a donné la révolution digitale. Aujourd'hui, pour l'ordinateur quantique, on fait un petit peu le pari. En tout cas, nous, les constructeurs hardware, on serait très contents d'avoir la même chose. C'est l'idée de l'ordinateur quantique, quelque part, c'est à un niveau fondamental, c'est juste dire on veut construire un bout de matière dont on contrôle parfaitement chacun des atomes. On joue un peu au dieu quelque part. On veut se donner une phase, un morceau de matière qu'on contrôle parfaitement. Et on sait bien, on suppose bien que ça va donner lieu à des applications qui aujourd'hui sont complètement inimaginables. Alors, il y a en parallèle tout un pan de recherche d'algorithmes quantiques ou d'applications, ou même les physiciens qui travaillent sur la matière condensée. Enfin, la compréhension de ces systèmes physiques sera extrêmement content d'avoir un bout sur lequel on peut expérimenter plein de choses. Mais aujourd'hui, on est incapable de dire, ça va donner lieu à telle ou telle technologie qu'aujourd'hui on ne sait pas encore imaginer.
Est-ce qu'il y a quand même des applications aujourd'hui qui émergent de vos travaux ou pas?
Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, on ne construit pas une machine en se disant on n'a aucune idée d'à quoi elle sert, on verra plus tard, on va juste investir des milliards pour construire la machine parce que c'est fun. Non, l'idée, ce n'est pas ça. C'est-à-dire ce qui a vraiment lancé le domaine, la construction de l'ordinateur quantique, c'est la découverte des premiers algorithmes quantiques. C'est-à-dire qu'avant ça, donc c'était Richard Feynman dans les années 80, il me semble, qui avait observé le fait que un système quantique est extrêmement dur à simuler classiquement. Et il avait tout de suite vu que, par contre, si j'ai une machine qui obéit aux lois de la mécanique quantique, ça va être beaucoup plus simple, parce que je peux simplement demander à ma machine de se comporter comme le système, et puis en observant directement ma machine, j'ai accès à... Ça me donne... c'est vraiment l'idée que je peux simuler la matière directement sur du hardware quantique. Ça, à l'époque, c'était pas forcément suffisant pour motiver l'industrie à investir des milliards à construire cette machine. C'est vraiment un peu plus tard, dans les années 90... Au moment de la découverte des premiers algorithmes, où là, vraiment, ça a commencé à établir le fait que, effectivement, un ordinateur quantique avait accès à quelque part un paradigme de calcul supérieur, que les premiers efforts industriels ont commencé. Et en particulier, ce qui a marqué énormément la communauté scientifique, c'est l'algorithme de Shor, en 94 ou 95. Donc, c'est un algorithme qui permet de factoriser des nombres entiers, retrouver les facteurs premiers, et qui peut faire ça de manière polynomiale. Alors le polynomial, c'est versus l'exponentiel, je pense que j'en reparlerai. Mais grosso modo, ce que ça veut dire pour tout le monde, c'est que c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire, si, si je prends deux nombres premiers suffisamment grands, que je les multiplie entre eux et que je vous donne le résultat, et que vous cherchez à retrouver quels étaient les deux nombres premiers desquels j'étais parti, et que vous faites ça avec un ordinateur classique, ça va typiquement vous prendre des siècles. Alors qu'avec un ordinateur quantique, vous pourriez faire ça en quelques minutes ou quelques heures. Et c'est vraiment là qu'on voit la différence entre l'aspect polynomial versus exponentiel. Et donc quand cet algorithme a été trouvé, quelque part, ça établissait pour la première fois, enfin ça et puis d'autres algorithmes un peu reliés, que le paradigme, le fait d'avoir une machine quantique permettait vraiment d'effectuer des calculs de manière beaucoup plus efficace. Que quelque part, en informatique, on parle de classes de complexité. Mm-hmm. Les problèmes polynomiaux, les problèmes NP, c'est-à-dire qu'on suppose qu'ils ne sont pas polynomiaux, mais si on me donne la solution, je peux vérifier en temps polynomial que ça fonctionne. Et donc là, vraiment, ces algorithmes-là semblent indiquer que la classe de complexité d'un ordinateur quantique est strictement plus puissante que celle d'un ordinateur classique. Notez que ce n'est pas démontré. Hein. C'est-à-dire que pour nous, les constructeurs hardware, on n'est pas à l'abri du fait que demain, un chercheur en complexité démontre que l'ordinateur quantique est exactement à la même classe de complexité que l'ordinateur classique. Donc là, ça voudra dire deux choses. Soit on arrête de construire la machine. Ça voudra prouver, en tout cas, qu'il existe, par exemple, des algos efficaces classiques aussi pour factoriser les nombres premiers, pour les nombres entiers. Tant que personne ne les a pas trouvés, il y aura toujours intérêt à construire un ordinateur quantique. Mais voilà, ça affaiblirait quand même vachement l'intérêt de construire une machine.
Et donc, tous ces calculs, ils permettent quoi après ? À quoi ils servent ? À quoi ça sert de faire des calculs de manière toujours plus rapide et plus complexe ?
Je dirais aujourd'hui, il y a dans l'industrie, toute la R&D, enfin, dans tous les pans de l'industrie, quelque part, à la fin de la journée, repose sur du calcul classique. C'est-à-dire, depuis l'essor de l'informatique classique, ça a vraiment la recherche par simulation, par calcul, par simulation numérique sur des machines, a complètement révolutionné énormément de pans de l'industrie, allant de la pharma. Enfin, vraiment, c'est plutôt par défaut. Je crois qu'on peut pas citer un seul domaine qui n'a pas été révolutionné. Et donc aujourd'hui, il y a certaines industries qui sont limitées par leur puissance de calcul. C'est-à-dire vraiment, si ils arrivaient à avoir des ordinateurs plus gros, eh ben ils pourraient optimiser toujours certaines choses, donc gagner plus d'argent ou développer des meilleurs médicaments ou ce genre de choses. Je pense qu'on en parlera après. Et donc pour ces industries qui sont quelque part limitées aujourd'hui par la puissance de calcul, il y a un vrai intérêt à comprendre est-ce que l'ordinateur quantique permet d'accélérer leur calcul spécifique. C'est un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché que l'ordinateur quantique vise à adresser, il faut vraiment regarder du côté des supercalculateurs, c'est-à-dire qui sont les industriels qui peuvent dépenser des millions de dollars en puissance de calcul classique ou qui est intéressé. Il y a une course aussi au hardware classique, hein, construire des centres HPC toujours plus gros, améliorer en parallèle du hardware aussi les méthodes numériques, les algorithmes, etc. Mais grosso modo, tous les gens qui sont intéressés par ce genre de problème ont intérêt à regarder un petit peu est-ce que l'informatique quantique peut les aider ou pas.
Ouais. Et donc, par exemple, dans le secteur de l'intelligence artificielle ou alors dans le secteur de... dans les data centers, dans la gestion des data centers et de la donnée, dans la production énergétique et la gestion du mix énergétique, l'ordinateur quantique va faire une révolution. Parce que c'est des secteurs qui dépendent aujourd'hui énormément de leur capacité de calcul et qui sont souvent bloqués justement par cette capacité où ils ne peuvent pas aller plus loin.
Oui,
ou alors ça leur coûte trop cher en énergie.
C'est des bons exemples, je ne les mettrai pas tous sur le même pied. Effectivement, le premier endroit qui paraît, le premier secteur qui paraît assez évident, qui sera très probablement révolutionné par l'arrivée de l'informatique quantique, ce sont tous ces problèmes qui sont de nature quantique. Le premier auquel je pense, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la conception de médicaments. Alors, comment est-ce que ça peut révolutionner, par exemple, la conception de médicaments ? Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est une science qui est extrêmement expérimentale. C'est-à-dire que la première étape dans la conception d'un médicament, c'est de, par exemple, identifier quel est le mécanisme biologique qui déconne, entre guillemets. Et ensuite, dans la conception du médicament, on va chercher à trouver une molécule qui va typiquement inhiber ce mécanisme biologique sans détruire tout ce qu'il y a autour. Parce que le corps humain, par exemple, est une machine biologique extrêmement complexe. Et donc ça, comment est-ce que font les gens en pratique ? Au début, ils ont accès à un espace de peut-être 10 puissance 60 molécules. Enfin, il y a une infinité de molécules qui existent. Très rapidement, ils savent en sélectionner peut-être quelque chose comme 10 000 où on pense que va y avoir des bonnes propriétés, et ensuite commence un travail extrêmement long. Donc pendant typiquement 4-5 ans, on va passer de 10 000 molécules à quelques centaines de molécules, en testant leurs propriétés, à la fois avec des simulations numériques classiques, mais comme elles sont limitées, on va aussi utiliser des tests expérimentaux in vitro, de la simulation, de la modélisation, de la synthèse, etc. etc. Et puis au bout de 4-5 ans, on arrive à réduire, de passer de 10 000 molécules à 100-200 molécules. Ensuite commence une autre phase beaucoup plus poussée sur ces molécules, qui peut durer entre 6 à 8 ans, où on va réussir à réduire ce nombre-là jusqu'à 5, avec encore une fois... Et pourquoi est-ce que c'est aussi long? Parce que typiquement, si on veut étudier les effets sur le corps humain, il peut y avoir des effets à long terme, ou énormément d'expériences qui font que c'est difficile. Et puis ensuite, des 5 molécules, on va développer des médicaments, dont un seul sera mis sur le marché. Donc un cycle de développement peut-être de 14 ans, qui coûte des milliards aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique. Et pourquoi, donc pour revenir à ma question, pourquoi est-ce que ce domaine-là peut être impacté par l'informatique quantique? C'est que fondamentalement, la raison pour laquelle c'est aussi long, pour laquelle on fait autant d'expériences, c'est qu'on n'a pas de méthode numérique efficace classiquement qui permette de simuler les molécules. Les molécules sont des petits systèmes, donc qui se comportent de manière quantique. Si maintenant j'ai un ordinateur quantique, je vais pouvoir simuler de manière beaucoup plus efficace la molécule. En fait, je vais pouvoir simuler directement les propriétés quantiques de cette molécule. Et donc, le temps que ça va me prendre pour passer de 10 000 molécules test à 4 molécules, ce ne sera pas une dizaine d'années et des millions en expérience. Oui, ça pourrait être quelque chose qui est fait in silico, c'est-à-dire juste sur mon ordinateur. Ouais. On pourrait même, le Graal, ce serait de faire de la prédiction, c'est-à-dire vraiment purement sur un ordinateur, avant même d'avoir synthétisé une molécule, de prendre le problème à l'envers et de jouer un peu sur mon ordinateur quantique à synthétiser exactement la molécule, et puis ensuite, une fois que je sais que c'est la bonne, à la fabriquer directement. Donc il y a ces problèmes qui sont de nature fondamentalement quantique, pour lesquels on envisage vraiment que l'informatique quantique, de manière assez naturelle, là j'en ai cité un de manière détaillée, mais il y en a plein. Il y a maintenant d'autres problèmes qu'on citait qui sont beaucoup moins évidents. Par exemple, c'est un peu pour ça que l'algorithme de Shor est toujours aussi difficile à palper. Parce que vraiment, fondamentalement, si on se dit, j'ai un nombre entier, je cherche les facteurs premiers, on ne voit pas vraiment ce qu'il y a de quantique là-dedans. Donc c'est un peu particulier que l'informatique quantique arrive à faire ça de manière exponentiellement plus efficace que l'informatique classique. Il y a d'autres problèmes comme ça dans l'industrie. C'est un peu aujourd'hui, en fait, il y a pas non plus énormément de... Alors ça viendra peut-être comme une surprise, mais c'est une misconception qu'on a souvent dans le grand public, c'est que l'ordinateur quantique est juste un nouveau type de supercalculateur, et que tout ce que fait un supercalculateur pourra être fait sur un ordinateur quantique de manière beaucoup plus efficace. C'est assez faux, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que le problème ait vraiment une structure bien particulière pour que sur cette structure-là, on ait un algorithme quantique qui a ce qu'on appelle un speed-up, une accélération par rapport au meilleur algorithme classique équivalent qui résout le même problème. Et ensuite, arriver à démontrer que pour la résolution complète de ce problème, le fait d'avoir une accélération quantique sur tout ou partie du problème donne vraiment lieu à un avantage business à la fin de la journée. Et ça, c'est pas du tout évident.
Et ça, c'est quoi les caractéristiques qui font ça?
C'est un peu la question à $1 million pour les chercheurs en algorithmique quantique. Je dirais, il y a certains algorithmes quantiques, des sous-routines quantiques qui ont été découvertes, qui permettent de résoudre certains problèmes abstraits. Donc, par exemple, une de ces sous-routines, c'est l'estimation de phase quantique, c'est-à-dire c'est des problèmes vraiment très abstraits. Par exemple, étant donné un opérateur, plutôt un unitaire, est-ce que je peux trouver ses valeurs propres? Donc ça, c'est un problème qui est bien posé, qui est classiquement difficile. Avec l'ordinateur quantique, on a une sous-routine qui permet de faire ça. En soi, ça ne sert à rien. Et donc maintenant, si je suis un industriel, que par exemple, je suis en train d'étudier un mix de gaz énergétique et je veux optimiser le fonctionnement de la production de biogaz avec mon usine, je vais chercher comment modéliser mon problème ou le reformuler, parce qu'on sait bien en science que les problèmes mathématiques ont plusieurs formulations équivalentes, d'une manière à ce que ça fasse apparaître quelque part cette estimation de phase quantique. Et donc si j'arrive à formuler le problème tel que dans les étapes de résolution de ce problème, je vois qu'à un certain moment, j'ai besoin d'estimer une phase quantique, et bien ensuite je peux essayer d'estimer quelle est la complexité de l'algorithme total.
Mais du coup, c'est quoi une phase quantique? Comment tu...
Ça c'est vraiment, c'est calculer la valeur propre d'un opérateur. C'est un problème mathématique qui est bien... Il y a un autre problème je le cite parce que en fait dans les problèmes d'optimisation c'est souvent ça qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle le problème Kubo. Kubo c'est de l'optimisation binaire sous contrainte quadratique.
Okay. Donc
c'est un problème mathématique.
Les gens qui vont quitter la moitié des mots m'ont perdu.
Non, mais c'est la seule chose à retenir, c'est que c'est un problème mathématique abstrait, mais qui est en fait une classe qui regroupe... c'est la formalisation d'énormément de problèmes. C'est-à-dire que quand on cherche à faire de l'optimisation... Donc, je vais prendre un problème concret, voilà.
Type la théorie du voyageur ou la problématique du voyageur.
Voilà, c'est exactement ce genre de problème. Le voyageur de commerce, etc. Ce genre de problèmes peuvent se mapper dans des versions simplifiées sur ces problèmes un petit peu abstraits. Et ensuite, toute la question, c'est comment mon ordinateur quantique va résoudre ça. Et ça, ça a des tonnes d'applications de où est-ce que je mets mes bornes de rechargement de Vélib dans Paris. Je suis à la tête d'un aéroport, j'ai des problèmes de recherche opérationnelle, je veux faire le timing des avions. Enfin, exactement tous les problèmes industriels qu'on peut imaginer peuvent se ramener sur ce genre de problème un peu abstrait.
Et donc, pour le grand public, est-ce que ça va changer quelque chose dans le sens, est-ce que tu vois des applications à moyen terme vraiment dans la vie de tous les jours des gens, ou est-ce que ça va vraiment se traduire plutôt à travers ces applications industrielles de manière indirecte, comme tu le mentionnais?
Alors, je dirais, j'en sais rien.
Ouais,
ça, c'est la réponse honnête. Maintenant, mon intuition, c'est que, en tout cas, vu ce qu'on voit aujourd'hui, faut distinguer deux échelles de temps. C'est-à-dire, d'ici 10 à 20 ans, voire même 30 ans, je pense que le grand public n'aura absolument pas conscience de l'arrivée de l'informatique quantique, ni de ses applications. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous donne des médicaments extrêmement efficaces, et vous dites, oh, c'est génial, la médecine a tellement évolué depuis les années 50. En pratique, vous êtes incapable de citer les méthodes scientifiques qui ont conduit à tous ces développements, c'est-à-dire les méthodes
sans parler même de l'industrie qui a
des révolutions. Voilà, donc si... c'est probable que si dans 10 ou 15 ans, on dit, voilà, on a trouvé un médicament miraculeux contre le cancer et on a fait ça avec un ordinateur quantique, les gens vous le diront, ils vont dire, c'est avec un ordinateur quantique, c'est génial. Dans 50 ans, en fait, on ne le saura même plus parce que ce sera juste une technologie comme les autres qui sera là. Donc je dirais, voilà, je pense que ça va impacter forcément le grand public n'en sera pas forcément conscient, comme on n'a jamais suivi de près vraiment quels étaient les développements techniques, ça n'intéresse personne en fait. Long terme, juste pour terminer la réponse, je pense que long terme, si vraiment il y a un essor des technologies quantiques en général, que ça donne lieu à une nouvelle révolution industrielle avec des applications qu'on ne connaît pas et que finalement dans 80 ans, on vit dans un monde qui est quantique, là effectivement, je pense que tout le monde en sera conscient, mais ça aujourd'hui, on est incapable de le prédire.
Il faut se rappeler quand l'ordinateur a été créé dans les années 1970, 1980, quelque chose comme ça. Personne n'imaginait qu'on aurait tout un ordinateur chez nous, un ordinateur dans notre sac, et que notre téléphone serait lui-même un ordinateur. Et de toute façon, on n'avait pas du tout la même vision et définition de l'ordinateur. Donc,
ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai du mal à imaginer un monde où vraiment les gens ont des ordinateurs quantiques chez eux. Okay. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, de ce qu'on comprend, encore une fois, c'est toujours sous réserve, on est au balbutiement du domaine. Mais grosso modo, si vous n'avez pas un super calculateur dans votre sous-sol, vous n'avez aucune raison d'avoir un ordinateur quantique chez vous. Et de part aussi la complexité de la machine, alors là, les gens rétorqueront, oui, mais dans les années 50, un transistor aussi, ça prenait une table entière, et les premiers ordinateurs classiques qui ont été construits, c'était gros comme une maison, etc. Mais j'ai quand même énormément de mal à imaginer un Mac quantique, un laptop. Enfin, venez visiter le laboratoire, et puis
justement,
vous comprendrez. Il y a des raisons un peu fondamentales et physiques pour laquelle...
Pour le moment, justement, pour qu'on puisse le palper un peu, un ordinateur quantique, ça ressemble à quoi? C'est une grosse boîte, c'est vraiment à l'échelle même d'une salle. Ça ressemble à quoi?
Oui, ça tient dans un laboratoire, parce qu'on est encore à des prototypes. Si on cherchait à scaler la technologie aujourd'hui pour en faire quelque chose d'utile, là, il y a Google qui a publié des plans assez sympas. Alors, dans une vidéo, il montre un peu à quoi ça ressemblerait un ordinateur quantique à l'échelle qui permettrait, par exemple, de casser les codes crypto. Et là, ça ressemble, c'est un truc qui fait la taille d'une piscine olympique, qui est gros comme un réacteur nucléaire, grosso modo. Donc, aujourd'hui, dans le laboratoire, c'est assez gros. Par exemple, si vous venez chez Alice et Bob, un ordinateur quantique, ça va être déjà, il y aura le frigo dans lequel il y a la puce, qui est quelque chose qui fait typiquement entre 1 et 2 mètres de haut. C'est suspendu du plafond, peut-être 80 cm de diamètre. Et puis, à côté, il y a un gros rack d'électronique classique qui est là pour contrôler la machine quantique. Donc oui, on parle de machine, et ça, c'est encore pour contrôler des petites puces. Aujourd'hui, si on veut scaler, là, il y a des prototypes de frigo qui sortent, qui pèsent 5 tonnes, qui sont assez énormes avec des modules hexagonaux. Donc, on parle de quelque chose d'assez lourd. Ouais.
Et donc ouais, c'est vrai qu'on s'imagine souvent plus quelque chose de software que de hardware, mais en fait, un ordinateur quantique, c'est juste une énorme machine hardware ultra complexe, en quelque sorte.
C'est exactement ça. Ça revient à la première question. C'est une machine à calculer dont les composants se comportent de manière quantique. Donc, il faut ces composants les construire et arriver à les faire se comporter de manière quantique, ensemble. Et c'est vraiment ça, se faire comporter de manière quantique ensemble, c'est vraiment ça qui est fondamental. Pour venir à la première question de pourquoi la mécanique quantique, et j'ai tout de suite dit, voilà, c'est la physique de l'infiniment petit. Mais quand on y pense, nous, on est composé d'atomes. Chacun de nos atomes est infiniment petit. Donc, nous, on est une énorme machine quantique. Et pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas se téléporter ou se mettre dans des états de superposition? C'est vraiment le fait qu'on est composé de trop de systèmes quantiques. Et quelque part, quand on a plein de systèmes quantiques qui sont ensemble, leurs propriétés commencent à se moyenniser et disparaissent. En fait, les features purement quantiques, plus je mets d'atomes dans le système, plus ils disparaissent. Et donc, construire un ordinateur quantique, ben, c'est un énorme paradoxe, parce qu'on veut avoir suffisamment de qubits pour faire des calculs intéressants. Donc, suffisamment de qubits, c'est peut-être quelques dizaines de milliers de qubits. Et là, déjà, c'est trop de qubits. Hein. Donc, et chacun de ces qubits se décohère. Et donc, finalement, quand on construit une machine, ben, elle finit par être classique. Et rien
c'est vraiment un équilibre parfait à trouver, quoi.
C'est une situation un peu paradoxale où on veut que les qubits puissent interagir les uns avec les autres pour être, la première étape d'un algorithme quantique, c'est de mettre l'ordinateur dans la superposition de tous ces qubits. Donc ces qubits à eux doivent interagir pour être capables d'être dans ces états de superposition, mais ils doivent être parfaitement environnés, isolés de tout ce qu'il y a autour. Sinon, ils ne se comportent plus de manière quantique. Donc c'est vraiment, et ça c'est un peu, en plus nous, c'est une machine à calculer, on veut pas juste construire un bout de matière quantique dans une boîte en disant, ils se comportent de manière quantique, c'est génial. On veut aussi être capable de venir mettre des instructions, faire le calcul et lire le résultat du calcul, c'est ça qui nous intéresse. Donc à un haut niveau, c'est ça qui est extrêmement difficile, hein, c'est qu'on veut l'isoler d'absolument tout, sauf de nous-mêmes, hein, ça on veut.
Et vous, où est-ce que vous en êtes? Et qui sont les autres acteurs du marché? Et eux, où est-ce qu'ils en sont? Tout à l'heure, tu as parlé un peu de Google. Avant cet épisode, on a parlé de Pascal, qui est aussi une start-up française. Il y en a d'autres qui sont sur ce secteur-ci. Où est-ce que vous en êtes et qui est-ce qu'il y a?
Je dirais, dans le développement de l'informatique quantique, il y a trois typologies d'acteurs. Il y a le monde académique, qui était là en premier et qui continue, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de recherches fondamentales à faire, aussi bien du côté algorithmique pour trouver les applications, que du côté hardware pour trouver les bons systèmes, et aussi tous les niveaux intermédiaires comme la correction d'erreurs quantiques, ce genre d'algorithme. Donc c'est toujours, je dirais que la frontière de la science, de notre connaissance, est quand même avant tout portée par l'écosystème académique. Ensuite, il y a il y a tout le monde industriel. Et là, il y a, encore une fois, on peut distinguer deux types d'acteurs. Il y a, grosso modo, les startups qui portent l'innovation. Et puis, les géants de l'informatique. Donc, on peut citer les GAFA, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Et puis, le troisième type d'acteurs sont les gouvernements. Alors, qui font, portent pas directement la recherche, mais il y a énormément d'initiatives nationales. Je dirais que tous les gros pays industrialisés aujourd'hui se sont dotés d'initiatives nationales quantiques, donc qui se comptent en milliards pour la Chine et les États-Unis. Emmanuel Macron a annoncé un plan français de 1,8 milliard, je pense, etc. Donc, pour les acteurs industriels, deux typologies, donc les géants comme Google, par exemple aux États-Unis, Google, IBM, Amazon, Microsoft, porte cet effort. Et côté start-up, alors là, il y en a dans tous les pays, donc c'est beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des start-up qui sont très grosses. On a vu une vague dans les dernières années d'introduction en bourse avec des start-up qui sont maintenant valorisées plusieurs milliards de dollars comme IonQ, D-Wave, Rigetti. Et en Europe, des start-up à taille plus humaine, entre guillemets. Et en France, on est extrêmement bien doté avec 5 start-up hardware, hein, qui ont grosso modo chacune une plateforme physique différente. Donc à un niveau abstrait, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur dont les composants se comportent de manière quantique. En pratique, il y a plein de manières différentes, de systèmes physiques pour faire ça. Donc tu as cité Pascal qui utilise des atomes neutres, Alice et Bob utilisent des circuits supraconducteurs, Candela utilise des photons, C12, des qubits de spin dans des nanotubes de carbone, et puis Sequans, la dernière start-up arrivée dans le domaine, spin-off du CEA à Grenoble, hein, qui utilise aussi des qubits de spin, mais plus dans le silicone.
Ok. Et qu'est-ce que les gouvernements font là-dessus? Je sais qu'en France, les start-up quantiques sont chouchoutées un peu par le gouvernement et que vous avez vachement de ressources qui sont à votre disposition, ne serait-ce en termes de sécurité. Vous êtes traité presque comme un secteur militaire. Ou à la même échelle que la défense, quoi. Qu'est-ce que le gouvernement fait concrètement pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres gouvernements qui font des choses différentes? Est-ce que c'est un sujet qui est européen ou alors national?
Alors, il y a beaucoup de questions là. Ouais. Donc je dirais le rôle principal du gouvernement, en tout cas je peux parler du plan quantique français que je connais bien, peut-être un peu moins des plans étrangers, mais le rôle principal du gouvernement, c'est effectivement de favoriser l'essor de champions français et aussi européens, c'est un peu l'échelle européenne, pour ne pas perdre la course quantique. C'est-à-dire qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a des enjeux stratégiques nationaux liés au développement de ces technologies, parce que comme tu l'as dit, on est traité quasiment comme dans le secteur militaire, et c'est vrai, ça vient du fait qu'il y a des applications militaires à ce hardware. Le rôle du gouvernement, quelque part, c'est de s'assurer que la France reste bien placée dans la course internationale. C'est marrant parce que on peut comparer à ce qui se passe aujourd'hui dans le quantique à la course au spatial des années 50. Mais à l'époque, l'effort était vraiment porté directement par les gouvernements via des agences nationales qui cherchaient elles-mêmes à construire les fusées, etc., pour des enjeux de souveraineté. Aujourd'hui, on n'a pas directement d'agence nationale qui cherche à construire un ordinateur quantique, à porter l'effort industriel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les académiques et les Français sont très bons dans ce domaine, qui aident exactement. Mais maintenant, le modèle, c'est que la partie industrialisation, l'effort de guerre, vraiment, est porté par l'innovation, donc par les startups, en collaboration extrêmement étroite avec les académies. Donc le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer effectivement, d'une part, que tous ces gens-là soient bien financés, aussi bien les académies que l'effort industriel, sans toutefois s'immiscer. Hein. C'est-à-dire que nous, on reste une entreprise privée, on est évidemment aidé par le gouvernement, mais on n'est pas directement financé par le gouvernement, ou sinon indirectement via le fonds d'investissement BPI. Mais voilà, le but du jeu, c'est quand même de faire en sorte que les startups françaises n'échouent pas pour des raisons qui seraient non technologiques, mais raisons purement entrepreneuriales, sans non plus faire de l'ingérence et puis de financer une équipe qui n'aurait pas forcément la bonne technologie ou la bonne équipe ou les capacités en tout cas. Donc c'est un espèce de jeu un peu complexe.
Non, mais du coup, est-ce que le gouvernement vous apporte des ressources ou pas, autres que financières? Je pense par exemple à la sécurité, tu nous disais qu'il y avait des applications militaires. Est-ce que vous laissez tout open source? Ou est-ce qu'il y a des trucs qui restent confidentiels et dans lesquels presque vous avez des ressources, je sais pas, j'ai même plus le nom des agences de renseignement français, mais...
La DGSI.
Voilà, où la DGSI intervient pour vous aider à sécuriser vos données, etc.
On est extrêmement bien accompagné sur tous ces sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un domaine stratégique d'une importance telle qu'il est évident qu'il y a dans le domaine de l'espionnage industriel, etc. Et donc sur tous ces sujets, évidemment, quand on monte une boîte, c'est pas forcément évident de se structurer. Et là, on est très bien accompagné, effectivement, par le gouvernement. Sur les autres aspects, tout ce qu'on fait est par nature confidentiel. Il y a aujourd'hui une vraie course à l'informatique quantique, c'est-à-dire il y a énormément de voies technologiques qui sont explorées en parallèle, que ce soit les plateformes technologiques dont on a parlé, des différents types de hardware, mais aussi au sein même par exemple sur les circuits supraconducteurs, et Google est en compétition, Alcibab est en compétition avec Google, Amazon ou des Européens comme IQM. Et donc là, chacun a son angle technologique, chacun a ses secrets maison. Et donc tout ça est évidemment extrêmement sensible, extrêmement protégé. Donc la façon dont nous on se protège, c'est évidemment via tout ce qui est IP, c'est-à-dire qu'on dépose des brevets, et via le secret industriel. Et sur toutes ces choses-là, oui, le gouvernement nous aide.
Et pourquoi cette course justement? Comment tu expliquerais cette nécessité de pas être en retard? Ça changerait quoi pour un pays d'avoir vraiment une technologie quantique avant les autres?
Alors la course au niveau industriel, ça vient juste du fait que c'est une technologie complètement disruptive qui va ouvrir des nouveaux marchés ou en révolutionner d'autres. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui Alice et Bob prenaient 15 ans d'avance et avaient un ordinateur quantique complet à l'échelle, on pourrait décider de créer une boîte qui deviendrait numéro 1 de la pharmaceutique, une boîte qui deviendrait numéro 1 dans chaque domaine. Donc il y a des enjeux économiques tels que du côté industriel, la course se justifie par ça. Pour les États, c'est vraiment la sécurité des systèmes cryptographiques. Donc, on en parlait tout à l'heure, un ordinateur quantique permet de factoriser des nombres entiers en leur facteur premier. Ce problème mathématique est extrêmement dur et il est à la base de certains systèmes crypto comme le RSA, qui garantit la sécurité, par exemple, de l'Internet ou des transactions bancaires. Donc, si aujourd'hui, au fin fond d'un sous-sol, la Chine, par exemple, arrive à construire un ordinateur quantique, il y a énormément de systèmes crypto qui seraient menacés.
Donc c'est
exactement. Donc c'est vraiment. Donc là, l'effort de construire la machine, c'est du côté attaquant. Il y a surtout en fait un énorme effort du côté des États pour se protéger, c'est-à-dire migrer tous les systèmes vers des systèmes crypto pour lesquels on ne connaît pas d'attaque quantique. C'est un domaine de recherche qui s'appelle la crypto post-quantique. Mmh. Par exemple, en France, à INRIA, qui est l'Institut de Computer Science de recherche, il y a des équipes excellentes qui travaillent sur le sujet. Le NIST, c'est-à-dire l'Institut des standards et technologies américains, qui en fait fait les standards internationaux. C'est-à-dire quand il y a un problème, comme ça, en général, le NIST lance un concours, dit voilà, proposer des solutions. Pendant des années, des chercheurs du monde entier proposent des protocoles. Et ensuite, ils élisent le meilleur protocole et ça devient le standard international. Par exemple, je pense que le HTTPS d'Internet vient d'un concours du NIST. Donc, ils ont lancé il y a quelques années son concours de crypto post-quantique en disant proposez-nous des protocoles pour lesquels on ne connaît pas d'attaque quantique. Et puis, le jour, ils vont dire voilà, on pense que ce protocole est le meilleur. Ce sera charge aux organisations ensuite de migrer vers ces protocoles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a énormément de systèmes crypto qui sont vulnérables à une attaque quantique. La seule chose qui protège ces systèmes, c'est que le hardware n'est pas prêt. Mais il y a un paradigme de hack now, decrypt later. C'est-à-dire les gens qui vendent des solutions quantiques vous disent mais en fait, une donnée n'a jamais besoin d'être protégée que là, à l'instant T. Si on parle de secrets d'État ou de données médicales, il se peut que ces données-là doivent être protégées sur 20, 30, 40, 50 ans. Et donc là, le risque qui est réel aujourd'hui, c'est que des gens arrivent à récupérer ces données cryptées, les gardent au chaud pendant 20 ans, et puis le jour où l'ordinateur quantique arrive à l'échelle, puissent les décrypter et obtenir des données qui devraient encore être confidentielles à ce moment-là.
Les parades à ce genre de choses, ça correspond quoi justement ? C'est vraiment trouver des solutions, en tout cas, pour recrypter différemment ?
Exactement, c'est proposer des protocoles de crypto pour lesquels on ne connaît pas d'attaque quantique. Et là, on voit bien qu'en fait, c'est difficile parce que ça veut dire qu'on n'aura jamais résolu le problème. C'est-à-dire demain, ouais. C'est ce qui s'est passé, par exemple.
La souris un peu.
Le NIST avait présélectionné 4 candidats en disant, voilà, on pense que ces 4 protocoles sont résistants. Et il me semble que dans les 2 semaines qui ont suivi, il y en a 2 qui ont été cassés sur les 4. Parce qu'évidemment, dès lors que le NIST propose des standards, tout de suite, une partie de la communauté, et c'est normal, cherche à les attaquer pour vérifier le fait qu'ils sont... Donc voilà, c'est un peu un espèce c'est un jeu du chat et de la souris, quoi. C'est, en crypto, hein, ça a toujours été le cas, avec cette tension entre les attaques et la défense. Et donc là, on est un peu... C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de protocole vraiment établi. On aurait pu démontrer de manière fondamentale que ce protocole est résistant. Il y a aussi une partie qui cherche à exploiter directement, ça c'est plus pour la communication, mais directement les lois de la mécanique quantique elle-même pour garantir la sécurité du protocole. Par exemple, il y a le protocole très connu qui s'appelle la QKD, la Quantum Key Distribution, donc distribution de clés quantiques. Ouais. Où on va chercher à faire. Donc en fait, il y a beaucoup de protocoles crypto dont la sécurité repose sur le fait que la génération de la clé qui va permettre de décoder est elle-même sûre. Parce que si moi j'arrive à choper la clé, je peux décoder.
C'est surtout juste pour être sûr, c'est des problèmes de complexité, c'est ça, pour déchiffrer les choses
C'est exactement ça. C'est un problème dont la complexité repose sur la... Pareil, entre autres, c'est la complexité de trouver la clé. Et donc en QKD, ce qu'on fait, c'est que la sécurité de la clé peut reposer sur les lois de la mécanique quantique même. C'est-à-dire qu'il y a en mécanique quantique certains phénomènes dont on n'a pas parlé, comme le fait que quand on mesure un système quantique, on a un effet sur ce système. Et donc on peut imaginer un protocole où le protocole est lui-même quantique, et puis si quelqu'un veut venir espionner ce protocole, et juste le fait qu'il observe le système, il va avoir un effet, donc ça peut empêcher d'observer le système. Et là, la sécurité repose vraiment sur les lois de la physique elle-même. Donc, c'est un peu truc. Donc voilà. Donc il y a aussi, pour dire que l'informatique quantique, c'est du côté des attaquants, mais aussi du côté des gens qui cherchent des protocoles quantiques qui seraient résistants.
La cryptographie quantique repose pas uniquement justement sur la puissance de calcul de ces nouvelles machines, mais également sur des nouveaux principes.
Juste du coup, pour revenir un petit peu en arrière, la cryptographie quantique, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
La cryptographie ?
Ouais.
En général, quand on parle de... Je suis pas expert de ce domaine, mais moi, quand j'entends cryptographie quantique, j'entends attaque quantique sur des systèmes crypto. Donc, c'est vraiment ce principe de dire, certains problèmes... En fait, à la base de la crypto, sont des problèmes qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'on est très content en crypto quand on trouve un problème mathématique qui est très dur à résoudre. Et on se dit, comment est-ce que je construis un protocole à partir de... Donc, quelque part, la seule vulnérabilité de ce protocole... serait la capacité à résoudre ce problème. C'est-à-dire, tout autour, j'ai mis une carapace, je suis sûr qu'il n'y a aucun autre moyen d'attaquer ce protocole que de résoudre ce problème mathématique. Et là, on veut des problèmes mathématiques typiquement NP. NP, ça veut dire très dur à résoudre, mais si on me donne la solution, très facile à vérifier que c'est la bonne solution. Donc, par exemple, dans le cas de toujours sur la factorisation des nombres entiers, Si je vous donne juste le produit de la multiplication de deux nombres premiers très grands, c'est très dur de les retrouver. Mais si je vous donne un des deux facteurs premiers, bah avec une simple division, vous retrouvez l'autre. Bah ouais, ou si je vous donne les deux, bah vous les multipliez puis vous vérifiez qu'effectivement c'est la bonne chose. Et donc là, la cryptographie quantique, c'est bah, typiquement trouver des algorithmes quantiques hein, qui sont efficaces pour résoudre ce problème-là qui est au cœur de la sécurité du protocole. Si vous arrivez à faire ça, bah, on parle d'attaque quantique. C'est-à-dire, vous avez vraiment une manière de casser. Le problème est cryptanalysé dans le sens où vous savez comment l'attaquer.
Ok. Et c'est quoi les défis aujourd'hui du coup de ces ordinateurs quantiques? Parce que tu nous as dit déjà qu'ils n'étaient pas opérationnels. En tout cas, on ne pouvait pas les trouver de partout demain. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas en retrouver dans toutes les grandes entreprises demain?
Je dirais qu'il y a deux natures de problèmes différents. Un problème lié plutôt à l'algorithmie, au software, et un problème qui est vraiment lié au hardware. Okay. Je voudrais surtout parler du hardware, donc je vais commencer par l'autre. Le problème lié à l'algorithmie, c'est vraiment le problème de trouver des applications à l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, les applications les plus convaincantes, à mon sens, c'est vraiment l'attaque des systèmes crypto. Ouais. Honnêtement, moi, en tant que physicien chez Alice et Bob, c'est pas pour ça que je construis une machine. C'est-à-dire que c'est probablement extrêmement intéressant pour des groupes terroristes ou pour des États mal intentionnés. Mais moi, je serais extrêmement malheureux si on me disait à la fin de la journée, la seule application de cette machine-là, c'est de casser les systèmes crypto, et probablement d'ailleurs que beaucoup de gens n'essaieraient plus de la construire, quoi, si c'était vraiment la seule application. Donc, j'ai et pourtant, c'est une des applications les plus convaincantes dans le sens où, pour ces applications-là, on a vraiment un problème dont la résolution est un algorithme quantique de bout en bout, dont on peut prouver mathématiquement la supériorité en termes de théorie de complexité. Ça, on est capable de démontrer que voilà, on sait faire ça, on saura faire ça en quelques heures si on avait un ordinateur quantique parfait, alors que ça prendrait on pense que ça prendrait des siècles, enfin, ça prendrait des siècles avec le meilleur algorithme classique connu. Donc, un gros enjeu de, voilà, qu'est-ce qui fera que demain on a des ordinateurs quantiques dans toutes les entreprises? C'est vraiment ça, c'est cette capacité à transformer les problèmes industriels connus en des formes qui sont accélérables par l'informatique quantique. Et là, vraiment, je veux profiter de cette occasion pour passer un message qui est important, c'est que bien souvent, on prend un certain problème, par exemple l'intelligence artificielle, l'entraînement de réseaux de neurones, et puis on se dit, voilà, il peut se mettre sous une forme où j'ai un algorithme quantique qui a un avantage sur le meilleur algo classique. Et ça suffit souvent pour sauter aux conclusions de l'informatique quantique va complètement disrupter l'intelligence artificielle. En réalité, c'est absolument pas suffisant. Ce qui manque vraiment pour que ce soit utile dans l'industrie, qu'on puisse vraiment avoir un avantage business sur ces problèmes-là, c'est de coucher sur le papier la solution quantique de bout en bout, c'est-à-dire de prendre le problème, de le formaliser, de regarder combien de temps ça prendrait pour résoudre ça avec un ordinateur quantique, et de comparer ça aux meilleures méthodes classiques connues sur la taille de ces problèmes. Parce que parfois, il y a un problème pour lequel on sait que l'algorithme quantique peut être efficace, mais en réalité, la taille de ce problème, vous voyez, par exemple, pour être concret, quand je parle de problème, taille de problème, le problème, ça peut être le voyageur de commerce. Ouais. La taille du problème, c'est le nombre de villes qu'il doit visiter. Et parfois, il se peut que le vrai problème qu'ont les industriels, c'est-à-dire l'instance typique, fasse que l'ordinateur quantique n'a pas d'avantage par rapport à la meilleure méthode classique connue. En fait, souvent, on se concentre sur l'avantage asymptotique de l'algorithme, c'est-à-dire on a l'algorithme classique, il a une certaine complexité, on a l'algorithme quantique, il a une certaine complexité, et on voit que la complexité de l'algorithme quantique est meilleure. Ça veut dire vraiment si la taille du problème tendait vers l'infini, eh ben l'ordinateur quantique serait plus puissant. Mais nous, ce qui nous intéresse dans l'industrie, c'est pas des problèmes de taille infinie, c'est le vrai problème qu'a l'industriel. Et bien souvent, quand on fait cet exercice de vérité entre guillemets, de regarder, ok, concrètement, si on met les chiffres, ça donne quoi? Il y a encore des cas d'usage qui n'en sont pas, parce qu'on s'aperçoit que finalement, à cause des préfacteurs, des constantes qui se cachent, etc., du fait que l'ordinateur quantique est plus lent, par exemple, on s'aperçoit qu'en fait, à la fin de la journée, pour ce que font vraiment les industriels, l'ordinateur quantique ne servira à rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extrêmement important que le hardware va arriver tôt ou tard. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de question. Je ne vois pas un monde où dans 20 ans, tout le monde dit « désolé, c'était trop dur, on arrête ». C'est extrêmement, c'est prouvé. Enfin, tout le monde est extrêmement convaincu qu'il y a un intérêt. Le hardware sera là un jour ou l'autre. Ce qui est important, c'est vraiment que les industriels travaillent aujourd'hui avec les acteurs du domaine en algorithmie pour vraiment préciser ces cas d'usage, pour qu'on ait une idée très claire de si demain je vous donne un ordinateur quantique parfait de taille infinie, qu'est-ce qu'on en ferait, où est-ce qu'il gagnerait de l'argent, à quoi il serait utile dans un premier temps. Donc ça, je dirais, c'est.
Et du coup, il serait utile sur trois grandes verticales. La cryptographie quantique, l'optimisation et la simulation.
Oui, et puis je pense qu'on peut rajouter le machine learning, qui est aussi, ouais. Qui est pour le moment encore un champ de recherche, mais qui est une ouais. catégorie un peu différente. Mais effectivement, ça, c'est les grands domaines d'application. Donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est la construction du hardware. Ouais. Et construire le hardware, c'est extrêmement difficile. Le problème, il y a grosso modo deux grandes catégories de problèmes. Il y a la qualité du hardware, c'est-à-dire le temps de cohérence quantique. Temps de cohérence quantique, c'est vraiment, voilà, j'expliquais qu'à cause des interactions avec l'environnement, quand j'ai un bit quantique, il se comporte de manière quantique, et puis au bout d'un certain moment, il arrête de se comporter de manière quantique. Pour les circuits supraconducteurs, ce temps typique, c'est 10 microsecondes. Ouais. 10 microsecondes, c'est 10 millionièmes de seconde. Ça veut dire que vraiment, au bout de 10, vous mettez de l'information quantique dans votre bit, au bout de 10 microsecondes, elle est plus là, elle est perdue. Alors, comme ça, vous n'avez même pas le temps de cligner des yeux, quoi, en se dire, bon, ça ne sert à rien. En réalité, la vraie bonne métrique, c'est plutôt le temps de cohérence par rapport au temps de porte. Et le temps de porte, ça peut être, par exemple, pour notre plateforme, typiquement 10 nanosecondes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur un seul qubit, vous avez le temps de faire à peu près 1000 portes. Donc, c'est un petit algorithme. Ouais. L'enjeu, c'est que nous, on voudrait plutôt d'avoir de quelques centaines à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de qubits. Et le nombre de portes typiques qu'on veut exécuter est plutôt de l'ordre de la centaine de milliards, ou voire beaucoup plus. Ça peut monter à 1 million de milliards de portes. Donc il faudrait une machine avec 10 000 qubits qui reste cohérente, de manière, qui continue à se comporter de manière quantique sur une échelle de temps qui peut varier de quelques heures à quelques jours. Et ça, c'est extrêmement difficile à construire.
D'accord. Parmi les dernières applications, on parlait de la simulation quantique. Alors tu l'évoquais, il me semble, tout à l'heure avec les questions de molécules. Globalement, ça veut dire qu'on pourrait simuler n'importe quel système qui peut se rapporter, en tout cas sous forme quantique, et donc en fait prédire plein de choses dans l'industrie, c'est ça, en quelque sorte. Enfin, éviter de passer par des étapes d'expérimentation.
Exactement, ça permettrait de faire vraiment de la prédiction de propriétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît les lois de la chimie quantique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de, pour reprendre l'exemple que j'ai détaillé, de simplement concevoir purement par simulation une molécule? C'est que la simulation de cette molécule est trop compliquée. On saurait faire avec un ordinateur quantique,
mais on
a juste
ça.
Trop de temps.
Okay.
Et du coup, la manière dont c'est traité aujourd'hui, c'est qu'on va faire des modèles simplifiés. On va simplifier la mécanique de cette molécule et ça va nous donner des résultats approximatifs. L'idée d'avoir un système quantique, c'est vraiment d'éviter... Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est ce genre d'approximation? C'est une molécule, c'est plusieurs atomes. Chaque atome a des électrons. Donc, en fait, c'est un système qui a beaucoup d'électrons, et c'est très important de pouvoir calculer la structure électronique d'une molécule, et quand ils sont corrélés, c'est-à-dire chacun des électrons interagit avec ses voisins, ça c'est très difficile. Donc là, les méthodes classiques typiques qu'on fait, et qui marchent dans bien des cas, c'est par exemple des approximations champ moyen. On va juste dire un électron voit le champ moyen de tous les électrons qui sont autour. Et ça donne des résultats qui sont suffisants pour plein d'applications. Donc là, en classique, on est très content, on a une méthode approchée qui est efficace. C'est pas suffisant si on veut concevoir un médicament, on a vraiment besoin de comprendre les propriétés de la molécule. Et donc là, la simulation chimique, c'est exactement ça. C'est juste dire, mon ordinateur quantique, je vais le mettre dans l'état de ces électrons de la molécule. Donc je vais transformer mon ordinateur quantique en molécule. Et ensuite, juste en mesurant mon ordinateur quantique, c'est le résultat de l'algorithme, je vais pouvoir avoir accès aux propriétés chimiques de cette molécule, mais de manière extrêmement précise.
Et ça, c'est que du hardware, le fait de transformer l'ordinateur quantique en molécule. Parce que moi, ça me semble
c'est hardware
impossible.
Et software. Il y a toute une partie algorithmie. C'est vraiment le fait de... Ça, c'est des algorithmiciens, des chimistes qui vont dire, voilà comment j'encode ma molécule dans l'ordinateur quantique. Et ensuite, vraiment, là où se passe la magie, l'accélération, le côté calcul exponentiel, c'est vraiment, ça se passe dans la machine quantique.
Et ça, aujourd'hui, c'est possible de transformer un ordinateur quantique en molécule.
C'est possible, théoriquement, on sait comment faire. Ouais, là, c'est l'algorithme d'estimation de phase quantique dont je parlais. Et par contre, on n'a pas de machine quantique qui est de taille suffisante pour le faire en pratique.
Et c'est quoi qui bloque?
C'est vraiment le nombre de qubits. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, chez Alice et Bob, là, on a communiqué sur le fait qu'on avait une puce avec 4 qubits de chat. Okay. Donc 4 qubits de chat, ce n'est pas suffisant pour simuler la structure électronique de molécules intéressantes.
Il en faudrait combien?
Il en faudrait, je n'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais c'est au moins quelques milliers. Je pense que je ne me mouille pas trop. quelques centaines. Okay, alors, ouais. Surtout, non, c'est pas ça le problème, parce que si on voulait aujourd'hui construire une puce avec 1000 qubits, on pourrait vous la faire. Là, vous me le demandez, on la design, je pense que dans 2 semaines, je pourrais la mettre entre vos mains, et dans 3 semaines, elle pourrait être froide dans notre frigo, elle pourrait être en train d'être mesurée. Le problème, c'est que si on construisait ces 3000 qubits physiques, là, ils se comporteraient pas de manière quantique. Ils décorreraient de manière trop rapide, à cause justement du temps de vie de l'information quantique qui est trop faible. Donc, c'est pour ça. Donc, Et donc le temps de cohérence qu'il faut atteindre. Donc en fait, la bonne métrique, c'est tout à l'heure, je disais, voilà, un temps de cohérence, c'est 10 microsecondes. Un temps de porte, c'est 10 nanosecondes. Donc il y a 3 ordres de grandeur, c'est-à-dire j'ai le temps de faire 1000 portes. On peut le voir d'une autre manière, de dire, bah, grosso modo, à chaque fois que je fais une porte, j'ai une chance sur 1000 d'avoir une erreur, enfin que l'information quantique soit perdue. Donc ce 1 chance sur 1000, c'est 10 puissance moins 3. Il faudrait avoir plutôt de l'ordre de 10 puissance moins 10 à 10 puissance moins 15 taux d'erreur. C'est-à-dire sur un seul qubit, il faudrait arriver à faire de l'ordre de 1 milliard de portes, par exemple 10 puissance 9, pour faire quelque chose qui soit utile dans la simulation de système. Donc là, vous avez plusieurs manières de faire. Soit, bon, aujourd'hui, on a un ratio 1000, typiquement. Donc soit vous multipliez le temps de vie de votre qubit par 1 million. Donc 1000 fois 1 million, ça fait 1 milliard. Donc maintenant, vous avez le temps de faire toutes vos portes. Soit vous divisez le temps de la porte par 1 million. Alors ça, quand vous avez une porte qui fait déjà 10 nanosecondes, il y a très peu, vous n'arriverez pas à, juste, l'électronique ne sera pas assez rapide. Donc l'option qui est regardée, c'est plutôt d'arriver à augmenter le temps de cohérence des systèmes quantiques. Comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Bah, il faut isoler le qubit le mieux possible de son environnement, il faut trouver des bons matériaux. Depuis le début des circuits supraconducteurs, donc je parle de cette plateforme que je connais bien, il y a environ 15 ans, les temps de vie ont été multipliés par 100 000. Et ça, juste avec de l'ingénierie du système, des matériaux, de l'isolation électromagnétique, de la compréhension des systèmes physiques qui font que le qubit meurt, on est passé d'un temps de vie typique de 1 nanoseconde à 100 microsecondes, donc 5 ordres de grandeur. Aujourd'hui, j'ai dit, voilà, pour les applications les plus difficiles qu'on envisage, il faut encore gagner 8-9 ordres de grandeur sur la qualité du hardware. Il n'y a aucune chance d'y arriver juste en continuant d'améliorer les matériaux. En fait, aujourd'hui, on voit que ça... Au début, il y avait une progression assez rapide, comme souvent, puis maintenant, on est quand même sur des systèmes extrêmement optimisés. Voilà, ça continue de s'améliorer d'année en année, mais c'est vraiment... On parle de pouillème. On n'est pas sur quelque chose, on va pouvoir multiplier par 1 million. Donc là, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Heureusement, non. Il y a une théorie mathématique qui nous sauve, qui est la théorie de la correction d'erreur, qui nous explique comment on va pouvoir augmenter arbitrairement le temps de vie de l'information quantique, même si les systèmes physiques sont, eux, limités à ce qui se fait aujourd'hui de mieux.
Attends, je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Et à propos des qubits, j'ai également vu, alors qu'a priori, Alice et Bob avaient signé un record de stabilité. À quoi ça correspond exactement, la stabilité d'un qubit? Enfin, c'est quoi la problématique?
Alors la stabilité, en tout cas ce qui est fait référence à la stabilité, là, c'est vraiment le temps de cohérence du bit quantique. D'accord. Alors vous avez dit, voilà, Alice et Bob annonçaient un record du monde de stabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on a le meilleur qubit au monde, les meilleurs temps de vie? Malheureusement, non. En mécanique, pour un bit classique, il n'y a qu'un seul type d'erreur. Grosso modo, le bit peut prendre 2 valeurs, 0 et 1. Donc si je le mets dans 0 et qu'il se passe quelque chose de mal, il saute dans 1, j'ai perdu mon état. C'est ce qu'on appelle typiquement l'erreur de bit flip, hein, parce que ça flippe la valeur du bit. En mécanique quantique, comme on peut aussi mettre le bit dans un état de superposition, par exemple 0 plus 1, il y a une autre type d'erreur qui est purement quantique, qui est la perte de cette phase entre les deux. Par exemple, 0 plus 1 peut sauter vers 0 moins 1. Et donc là, on parle de phase flip, parce que c'est la phase de la superposition.
Il y a une dimension en plus, c'est ça.
Qui saute. Exactement. Et donc, quand chez Alice et Bob, on a annoncé ce record de stabilité, on a annoncé le fait que l'erreur de bit flip, 0,1, avait un temps de vie extrêmement long. Donc, c'était 100 secondes en ce cas-là. Mais malheureusement, on n'avait pas 100 secondes sur l'erreur de type phase flip. Si on avait eu 100 secondes sur les deux, je vous avais dit, voilà, là, on a 10 microsecondes pour passer à 100 secondes, c'est 7 ordres de grandeur. Là, on était bon. Là, effectivement, je vous aurais construite la chip à 1000 qubits et puis on aurait commencé à faire des choses utiles.
Et les gros acteurs internationaux, type Google, Amazon, ils en sont où là-dessus?
Alors, il faut distinguer les stratégies des différents acteurs. Je dirais Google et IBM cherchent aujourd'hui à scaler la taille de l'ordinateur quantique avec un qubit supraconducteur qu'on appelle le transmon, qui est le qubit historique de notre domaine. Donc le transmon, il a dû être inventé autour des années, début des années 2000. Alors au début, c'est la boîte à paire de Cooper, puis il a été un petit peu amélioré. Et grosso modo, c'est un qubit qui est très simple à construire Et depuis maintenant 15 ans, ils en optimisent les performances en faisant le pari que c'est la bonne brique technologique. Donc eux aujourd'hui, et ceux qui ont les meilleurs au monde, c'est IBM de très loin, ont des transmonts qui ont un temps de vie de typiquement une milliseconde. Donc une milliseconde, c'est peut-être 10 à 100 fois supérieur que ce qu'ont tous les autres acteurs du domaine qui essaient de construire le même qubit. Juste parce que IBM a passé 10 ans à en optimiser la fabrication. Personne ne sait comment ils font. Hein. Ils ont une super salle blanche, des super physiciens. Google suit un peu la même approche. Pour tous les autres acteurs des circuits supraconducteurs, comme Alice et Bob ou Amazon, par exemple, qui utilisent la même roadmap que nous, on pense que ces qubits-là ne seront jamais suffisamment bons. C'est-à-dire, même s'ils en ont énormément amélioré les performances, ils ne deviendront jamais suffisamment bons pour être vraiment la brique de base d'un système à 1 million de qubits. Donc nous, on cherche à construire un nouveau type de qubit, un qubit qui est un peu moins naïf, qu'on appelle le qubit de chat. C'est pour ça que sur le logo, il y a un chat, en référence au chat Schrödinger, qui est un qubit qui, justement, donc c'est ce qu'on évoquait, a un des deux temps de vie qui est extrêmement long, qui peut devenir extrêmement long, donc 100 secondes. Et du coup, la correction d'erreur quantique devient beaucoup plus facile, parce que l'idée de la correction d'erreur quantique, qui permet d'augmenter arbitrairement la durée de vie de l'information, c'est vraiment d'arriver à corriger ces erreurs-là. Donc dans le cas d'IBM, il faut arriver à corriger deux erreurs qui arrivent chacune toutes les millisecondes. Dans le cas d'Alice et Bob, il faut corriger deux erreurs, mais il y en a une qui arrive une fois toutes les 100 secondes, donc qui est extrêmement rare, et l'autre qui arrive toutes les quelques microsecondes, comme les autres erreurs, ce que les gens ont. Donc c'est vraiment l'idée, c'est le paradigme, enfin la différence entre la stratégie de Amazon et Alice et Bob par rapport à Google IBM, c'est vraiment d'arriver à trouver la bonne brique de base, quel est le bon qubit, quelles vont être les bonnes propriétés. Les bonnes propriétés, ça peut être soit des temps de vie très longs, mais les deux types de temps de vie, soit une espèce de structure dans le bruit, donc une erreur qui est très rare, comme ça, bah, j'ai besoin que de corriger l'autre, peut-être, avant de scaler la machine. On peut placer, par exemple, Microsoft, qui est encore plus loin, qui a poussé ce raisonnement de manière extrêmement loin, puisque eux, le type de qubit qu'ils utilisent est pour le moment qu'un objet mathématique. C'est Michael Friedman, Medal Fields, américain qui a inventé ce qu'on appelle les qubits topologiques, les fermions de Majorana. Et donc c'est un objet qui, c'est un qubit qui, s'il existait, serait extrêmement bon. Probablement ce sera la solution ultime pour scaler un ordinateur. Mais en pratique, c'est juste un objet de théorie. Ils n'ont jamais réussi à construire un système dans le laboratoire qui réalise ce qubit. Ils ont pensé avoir réussi il y a quelques années. Ils ont fait une publication dans Nature, qui est un journal extrêmement prestigieux. Et puis ils se sont aperçus que les données avaient été falsifiées par un étudiant. En tout cas, il y a eu un énorme scandale où ils ont dû rétracter cette publication, faire leur mea culpa en disant désolé, finalement on ne l'a pas observé. Et aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de qubit. Mais pour vous donner un peu, voilà, il y a différentes philosophies. Il y a vraiment la philosophie, on prend un qubit simple, mais on l'améliore à fond, et puis on fait le pari que ce sera ça, la solution. Ou le pari de dire, non, cette approche-là n'est pas raisonnable. Il faut inventer un qubit qui est bien meilleur, mais potentiellement beaucoup plus difficile à construire, et ça, ce sera la solution. Et puis Alice et Bob est quelque part au milieu dans ce spectre.
Et vous vous situez, vous êtes plutôt dans les meilleurs de la classe ou
Alors nous, on est sur la technologie des qubits de chat qui a été inventée théoriquement il y a un peu plus de 10 ans maintenant par une équipe de chercheurs à Paris, à INRIA, et en collaboration avec des chercheurs de l'université de Yale. Donc c'est le paradigme des codes bosoniques. Et donc pendant, je dirais, 6-7 ans, cette technologie a été développée par des académiques, comme souvent, donc vraiment juste de la pure recherche, des curiosités de chercheurs un peu fous. Et puis en 2019-2020, c'est vraiment le moment où cette technologie a commencé à être suffisamment mature pour que des industriels s'y intéressent. Donc c'est le moment où Alice et Bob a été créé par deux anciens étudiants de ce groupe, et moi j'étais aussi dans ce groupe, j'ai rejoint rapidement, avec comme ambition de dire, ce qubit, maintenant, on pense qu'il a été suffisamment développé, il est prêt pour sauter dans le grand bain, et nous, on veut industrialiser cette technologie. Et depuis qu'on a fait ça, il y a deux autres boîtes qui ont été créées, donc NorQuantic, une start-up canadienne, et puis Amazon. Alors Amazon n'a pas été créé, mais Amazon a annoncé son effort. Son plan, ouais. Ils sont lancés dans la course à l'informatique quantique fin 2019, ils ont recruté une équipe en 2020, et ils ont annoncé leur roadmap publiquement en novembre 2020. Avant ça, ils ne faisaient pas d'informatique quantique. Et ils sont aussi lancés sur les qubits de chat. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 4 boîtes au monde qui cherchent à faire des
Et ils viennent, vous êtes toujours leader là-dessus parce que vous êtes premier et que vous avez verrouillé un peu votre techno dès le début. Ou est-ce qu'ils viennent un peu vous chatouiller ?
Alors, je dirais, historiquement, on est effectivement leader parce qu'on est parti avec de l'avance. C'est-à-dire, on a dans notre board scientifique la majorité des chercheurs qui ont inventé les qubits de chat. On avait commencé à faire de la recherche. On a effectivement énormément d'IP, de brevets sur des composants vraiment clés, c'est-à-dire sur des composants de circuits qui permettent de stabiliser un qubit de chat. Et ça paraît extrêmement difficile d'envisager de faire sans. D'ailleurs, même dans les roadmaps de nos compétiteurs qui veulent faire des qubits de chat, ils veulent utiliser ce genre de composants, ce genre de technologie que nous, on a développé. Donc ça nous met dans une bonne situation pour dire qu'on est des leaders. Après, effectivement, c'est une espèce de compétition dont on se nourrit mutuellement. Parce que, par exemple, quand Amazon a publié sa roadmap, c'était quand même un papier de recherche de 120 pages. C'est beaucoup, 120 pages. Hein. C'est très rare d'avoir... qui était massif, dans laquelle ils ont proposé des améliorations d'architecture. Ils ont aussi développé des outils analytiques, des méthodes de calcul, des méthodes numériques qui permettent de bien simuler le système et dont nous, on se sert pour notre R&D. Oui, alors là, c'est de la recherche scientifique. C'est-à-dire, quand on propose une base mathématique, c'est pas quelque chose qui est protégeable, en tout cas, qui est difficile à protéger. Et nous, on a besoin de ce va-et-vient. En fait, on est compétiteurs, mais on est aussi sur une même technologie.
Non, mais c'est ça qui est aussi beau avec la recherche quantique, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont open source. Ce qui est de moins en moins le cas, par exemple, dans l'intelligence artificielle, où ça commence à être de plus en plus privé, on commence à publier de moins en moins de choses, même si les gouvernements poussent pour que toute la structure des LLM et tout soit publique.
Je dirais sur la partie hardware, rien n'est open source au sens où on l'entend, la recherche est divulguée gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a des publications scientifiques et c'est extrêmement important. Nous, c'est très important de publier ce qu'on fait, ne serait-ce que pour attirer des talents, c'est-à-dire démontrer que vraiment AliceBob est une des places fortes au monde dans la recherche sur les 4 qubits, et pour ça, on est obligé de publier. Mais en revanche, avant que quelque chose ne soit divulgué publiquement, tout est évidemment protégé, breveté. Et les secrets, en fait, les parties les plus critiques du hardware demeurent secrètes. Parce qu'en fait, même un brevet, c'est une forme de publication. Software. Sur le software, c'est un peu différent. Donc, je dirais les couches software qu'on utilise chez AliceBob, nous, on est une boîte hardware, ça va être vraiment être autour de des algorithmes de contrôle du BIOS quelque part de l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est pas des choses qui sont open source, c'est des choses qui pourraient l'être éventuellement, c'est des choses qu'on partage plus ou moins avec nos collaborateurs académiques, parce qu'on a un énorme effort là-dessus industriel, donc on permet aux chercheurs d'utiliser un peu ces choses-là. C'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on valorise encore, ni d'un point de vue open source ou avec d'autres stratégies que l'open source, mais c'est quelque chose qui pourrait l'être à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment parce que nous, on a une boîte de hardware. Pour les entreprises qui sont full stack ou les entreprises qui sont plutôt sur les couches hautes, là, il y a énormément de choses open source. Par exemple, IBM anime une communauté autour de leur solution Qiskit, qui permet de faire énormément de choses allant de la simulation de circuits quantiques à la conception de puces quantiques. Enfin, ils ont différents modules autour de la correction d'erreurs, ce genre de choses. Et donc là, eux, ils sont vraiment dans une stratégie d'évangélisation, c'est-à-dire que c'est cette solution qui est assez bien faite et partagée, par exemple, avec tout ce qui est éducation, donc dans les universités, etc., pour tous les cours d'informatique quantique qui se montent. Donc il y a effectivement pas mal de ressources qui sont en train d'émerger. Ça vient du fait que c'est un domaine qui se structure, avec pas mal d'open source. Mais tout ce qui est autour du hardware, qui est vraiment le nerf de la guerre, hein, est encore très secret, très protégé, et c'est normal.
Et justement, pour votre machine hardware, en termes de composants, est-ce que ça, à peu près, vous réutilisez les mêmes choses que ce qui existe déjà dans l'informatique classique, ou est-ce que justement il y a une industrie qui est en train de naître sur la création de composants pour le quantique ?
Alors c'est complètement différent de l'informatique classique. Alors en tout cas pour notre... hardware à nous, les gens qui utilisent des spin qubits dans le silicone, par exemple, un argument de vente très fort pour ces gens-là, c'est que s'ils arrivent à transformer ces qubits de spin dans le silicone en vrais qubits, ensuite ils pourront s'appuyer sur toute l'industrie CMOS, enfin sur le fait qu'on sait imprimer des milliards de transistors, etc. Nous, dans notre cas, c'est très différent. On travaille avec des matériaux déjà qui ont besoin d'être supraconducteurs. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent les circuits supraconducteurs. En fait, nous, on fait des circuits électriques supraconducteurs. Supraconducteurs, ça veut dire quoi ? C'est simplement le fait, vous savez, quand vous avez un courant électrique qui passe dans un fil, le fil chauffe par effet Joule. Et en fait, le fait qu'il chauffe, ça dissipe de l'énergie. C'est le fameux U égale RI qu'on apprend au lycée. La tension est proportionnelle à la résistance du matériau fois l'intensité du courant qui la traverse. Et un matériau supraconducteur, c'est un matériau qui, en dessous de sa température critique, alors c'est-à-dire que lorsqu'il est refroidi suffisamment froid, à une résistance qui tombe à zéro. Donc le courant peut s'écouler sans perte d'énergie. Donc nous, les circuits supraconducteurs, ça vient vraiment du fait que on ne veut pas dissiper d'énergie. L'information quantique est encodée dans un ou deux photons. Si ce photon est perdu par dissipation, tout de suite, on n'arrivera pas à faire un qubit.
C'est ce qui explique notamment les frigos, c'est justement pour ces matériaux-là ?
Alors, pas vraiment. Alors d'accord. Oui, il se trouve qu'on se met à une température qui est bien en dessous de la température critique, donc ils sont supra à ces températures-là, mais il se trouve qu'on doit se mettre beaucoup plus froid que ça. Donc voilà, donc juste pour finir, donc nous, les matériaux qu'on utilise sont des métaux supraconducteurs, comme l'aluminium, le tantal, le niobium, dont on n'a pas vraiment utilité dans l'informatique classique. Alors, la raison pour laquelle on se met dans un frigo et super froid, c'est effectivement... Donc, nous, on travaille à 10 millikelvin. Donc, 0 Kelvin, c'est le zéro absolu. Là, c'est le moins 273,15 degrés. Nous, on est à moins 273,16.
Il fait très, très froid, quoi.
Ou 14, ouais, pardon. C'est négatif, ça va dans l'autre sens. Donc, très froid. C'est quasiment le zéro absolu. C'est même plus froid que la température de l'univers, parce que cause du fond diffus cosmologique, la radiation du Big Bang fait encore quelques Kelvin. Et la raison pour laquelle on est vraiment si froid, c'est juste que si on n'est pas suffisamment proche du zéro absolu, il y a de l'énergie thermique qui est là sous forme de photons, et ces photons peuvent causer des transitions sur nos qubits. Nous, on travaille dans le régime micro-ondes, typiquement, c'est 1 GHz. Donc si on regarde, si on veut que l'énergie thermique, le facteur Boltzmann, la KBT, soit plus petit que... qu'on transforme ça en fréquence... à 1 GHz, ça donne une température typique de 50 millikelvin. Donc il faut qu'on soit en dessous de 50 millikelvin, sinon les photons thermiques qui sont là, grosso modo, ruinent nos systèmes. Donc c'est pour ça qu'on travaille à 10 millikelvin quand les frigos fonctionnent bien. Parfois, ça nous arrive dans le laboratoire qu'on ait des problèmes, ça peut être des problèmes mécaniques, des choses se mettent à vibrer. Par exemple, si vos frigos ne sont pas bien isolés, vous avez un tramway qui passe dans la rue, nous, on est à côté du T2, ça peut suffire à faire réchauffer le frigo. Ou plein de...
Vous êtes situé où ?
On est à Ballard, dans le 15e. Juste en face du ministère des Armées, mais c'est une coïncidence.
C'était pas exprès, ok. Et concrètement, comment on crée un qubit, du coup ? Je sais pas si c'est complexe à expliquer, sans trop rentrer dans les détails, mais ça se matérialise comment ?
Je peux prendre l'exemple du transmon, qui est un qubit très simple. C'est un circuit électrique qui est donné par une capacité, donc deux plaques d'électrodes, et puis on ferme une boucle et il y a un élément qui est une jonction Josephson. Donc la jonction Josephson, c'est l'élément de circuit supraconducteur et non linéaire. C'est le seul qu'on a dans les circuits supraconducteurs. Tous les qubits utilisent ça. C'est Brian Josephson qui avait découvert l'effet Josephson je ne sais plus quelle année, à 19 ans, il a eu le prix Nobel pour ça, et puis après il est devenu complètement fou. Mais bon, c'est l'élément de circuit que l'on utilise, et donc un transmon, c'est juste une capacité en parallèle avec une jonction Josephson. Alors qu'est-ce que ça fait ça ? Grosso modo, si on regarde l'espace, quel peut être l'état de ce système ? Dedans, on peut mettre certains photons, on peut mettre 0 photon, 1 photon, 3 photons, etc. Le fait que la jonction Josephson soit non linéaire, ça fait que la transition énergétique, c'est-à-dire si j'ai 0 photon et que je veux en mettre un, je vais le mettre à une certaine fréquence. Si j'en ai un et que je vais en mettre un deuxième, ça va être une fréquence différente, etc. Donc vraiment, les niveaux d'énergie ne sont pas
répartis. Le quantum, c'est ça ?
Ouais, c'est les photons qui sont quantifiés, effectivement. C'est cette idée que l'énergie est quantifiée. Et donc, le fait que les niveaux, c'est extrêmement important, le fait que les niveaux ne soient pas régulièrement espacés, ça fait que je peux utiliser le sous-espace 0 photon et 1 photon comme un qubit. C'est-à-dire que grosso modo, quand je dis, j'ai mon million de transmons qui va me permettre de faire tourner un algorithme et que chacun des qubits, au début, j'initialise dans l'état 0 plus 1, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce petit circuit que j'ai dessiné sur une puce avec un matériau supraconducteur contient une superposition de pas de photons et un photon. Il a à la fois 0 photon et 1 photon. Donc voilà, ça c'est une réponse, les circuits supraconducteurs. Donc vraiment, les circuits supraconducteurs, à la fin de la journée, c'est ça qu'on fait. Hein. C'est des bouts de métaux sur des puces. Et dans ces métaux, on vient piéger des ondes électromagnétiques. Donc les photons, quand ils sont dedans, ils font des allers-retours à la vitesse de la lumière. Et ensuite, avec des systèmes externes, on vient mettre en forme cette lumière, enfin dans le régime micro-ondes, la manipuler, faire des opérations, passer de 0 photon à 0 plus 1, etc. Et puis à la fin, on vient mesurer ce qu'est un photon. Et c'est là, c'est vraiment ça qui fait le calcul quantique. Si vous travaillez avec d'autres plateformes, c'est complètement différent. C'est chaque plateforme physique, par exemple Pascal qui fait des atomes neutres, c'est très différent. Eux, leur qubit, c'est un atome. Ils viennent physiquement le piéger dans l'espace avec des lasers dans tous les sens, par effet Doppler. Vous savez, l'effet Doppler, c'est un camion qui passe dans la rue et le son de la sirène change quand il passe à côté de vous, parce que selon que l'émetteur se rapproche ou s'éloigne, c'est pas la même fréquence. Donc là, c'est un peu la même idée. On met des lasers dans tous les sens autour du photon. de l'atome. Et si l'atome commence à se déplacer dans une direction, tout d'un coup, il devient résonant avec le laser qui arrive. Il se met à absorber les photons et ça l'arrête. Et donc, comme ça, on arrive à l'arrêt. Donc ensuite, eux, ils font ça avec une grille de dimensionnelle où il y a des lasers dans tous les sens. Ils piègent des atomes et ils manipulent. Et donc maintenant, c'est l'atome physique qui sert de plateforme pour encoder l'information quantique. Et puis quand on est là, fait ça avec des photons, c'est encore différent.
C'est vraiment des technologies très différentes.
Exactement. Quand je dis plateforme technologique, c'est des systèmes physiques dont la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se comportent tous de manière quantique. Donc sont des candidats éligibles pour construire un réacteur quantique. Maintenant, qu'est-ce qui est important, c'est de pouvoir en mettre beaucoup ensemble, de pouvoir les faire interagir entre eux, de pouvoir les contrôler, donc à la fois les initialiser et les mesurer au début et à la fin de l'algorithme, mais aussi pendant l'algorithme, de pouvoir jouer les portes quantiques, ce qui va vraiment faire avancer le calcul. Et que ce truc-là scale. Et donc maintenant, si on prend les plateformes techno, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, pour les circuits supraconducteurs, quelque chose qu'on sait faire de manière très facile par rapport à d'autres plateformes, c'est coupler les systèmes entre eux. Parce qu'on peut faire ça avec simplement physiquement sur la puce, on vient les mettre à côté, puis on dessine du métal pour qu'ils interagissent, par exemple. Alors que pour les photons, c'est extrêmement dur. C'est bien connu que faire interagir deux photons, c'est extrêmement difficile. Donc eux, ils ont cette galère que nous, on n'a pas. Et à l'inverse, nous, on doit travailler, par exemple, dans des frigos. On a des topologies typiques où c'est du 2D avec du couplage que du proche voisin. Donc même si je mets 1000 qubits sur une grille, ce qui va être facile à faire, c'est qu'un qubit au milieu voit les quatre voisins qu'il a autour de lui. Mais ça va être très dur de le faire interagir avec un qubit qui est plus loin sur la puce. Ça va être même quasiment impossible. Ouais. Alors que pour d'autres architectures comme les uons piégés, on a naturellement le fait qu'on puisse facilement faire interagir les choses à distance. Donc voilà, chacun a un peu ses avantages et ses inconvénients. S'il y avait une plateforme technologique qui regroupait tous les avantages et aucun inconvénient, tout le monde, il n'y aurait, aurait pas une course avec autant de boîtes qui utilisent différentes plateformes. Ouais.
Est-ce que tout le monde a la problématique de la stabilité du qubit ou pas?
Oui, c'est un point qui est commun. Et en fait, on comprend bien, c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est vraiment dire un système... la stabilité, enfin plutôt le temps de cohérence, le temps de vie de l'information quantique, est toujours fondamentalement lié au fait qu'il y a plein de systèmes autour qui interagissent. Et donc, quoi qu'il arrive, pour tout le monde, se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour bien isoler un système. Alors oui, par exemple, pour les photons, il y a cet avantage, un photon n'interagit avec pas grand-chose. Donc bon, c'est dur de faire interagir deux photons ensemble. Mais à l'inverse, c'est un avantage, parce que ce photon ne voit pas non plus les systèmes. C'est toujours cette idée qu'il y a une espèce de paradoxe. On veut vraiment faire une machine dont certains composants interagissent entre eux, mais avec rien de ce qu'il y a autour. Et cette difficulté se retrouve dans toutes les plateformes technologiques. Alors maintenant, il y a des différences un peu de temps de vie. Par exemple, les ions ont des temps de vie beaucoup plus longs. Est-ce que ça veut dire que ce sont des meilleurs qubits? Non, pas vraiment. Parce qu'encore une fois, comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est plutôt le temps de porte. Quelle est la vitesse à laquelle on arrive à manipuler l'information par rapport à son temps de vie? Donc c'est vraiment ce ratio qui compte. Donc si vous avez un qubit qui vit 1000 fois plus longtemps, mais que les portes sont 1000 fois plus lentes, c'est à peu près équivalent à modulo le fait que l'algorithme du coup va prendre 1000 fois plus de temps. Donc, à ratio fixé, on a plutôt envie que les choses soient rapides. Et là, les circuits supra sont vraiment pas mal lotis par rapport à ces métriques-là.
Et question bien sûr ouverte, est-ce que toi personnellement, tu penses qu'on va arriver peut-être un jour, dans 10-15 ans, à un consensus sur un ordinateur, un modèle qui sera plus pertinent? Ou est-ce que finalement, justement, la diversité et tous les modèles peuvent se compléter intelligemment pour des applications diverses?
Moi, j'ai pas la boule de cristal, donc encore une fois, j'en sais rien. Alors, je peux dire un peu quelle est la vision des choses dans la communauté scientifique, et moi, je suis assez d'accord avec ce que j'entends souvent, c'est que le marché de l'informatique quantique, du calcul quantique, est par exemple estimé à 800 milliards, selon l'estimation du BCG, avec toutes les applications qu'on a connues. Je pense qu'effectivement, une énorme partie de ce marché ne sera adressée que par un seul type de technologie. Aujourd'hui, on est encore dans une course où il y a peut-être 5-6 plateformes technologiques qui en sont au même niveau de maturité. Alors, il y en a probablement 3 qui ont un peu d'avance sur les autres. C'est les circuits supraconducteurs, les ions et la photonique. Mais je pense vraiment que d'ici à 10 ans, on va avoir une énorme rationalisation. Et ce qui va se passer, c'est qu'une plateforme va commencer à réussir à démontrer des résultats que les autres n'auront pas, puis va continuer à avancer, à scaler. Et ce sera de plus en plus difficile de faire financer les autres plateformes qui seront derrière. C'est-à-dire, si on est sur une plateforme techno qui n'arrive même pas à reproduire ce qu'une autre plateforme a fait il y a 5 ans, 10 ans, les investissements vont se tarir, etc. Et naturellement, ça fera émerger un champion. Maintenant, ce qu'on entend souvent dans le domaine, c'est que est-ce que ce sera la fin des autres plateformes technologiques? Probablement pas. Probablement qu'elles trouveront des applications spécialisées. C'est-à-dire qu'on sait que chaque type de hardware a des avantages, des inconvénients. Et donc, il se trouve que pour certaines applications, on veut avoir un certain type d'avantage beaucoup plus que... Et par contre, les autres inconvénients n'en sont pas vraiment. Donc c'est assez probable que les autres, et que tout cet effort qui aura été investi dans toutes ces plateformes technologiques qui auront permis de les développer de manière considérable pendant 10 ans, donneront lieu à des applications spécialisées, mais qui sont probablement avec des marchés de niche, entre guillemets. C'est-à-dire peut-être que ça fera des instruments scientifiques ou des choses qui sont... Mais ce ne sera pas vraiment le gros marché dont on parle, qui va révolutionner énormément d'industries, etc. Et je pense que la rationalisation ne se fera pas dans 20 ans, à mon avis.
Ouais, c'est vraiment bien plus.
Dans 5 à 10 ans, je m'attends à voir des startups qui vont échouer, des industriels qui vont arrêter leur effort ou le faire pivoter vers d'autres architectures.
Parce qu'ils seront face à un mur et que ça leur semblera impossible de continuer dans cette direction-ci.
Parce qu'on parle d'investissements de milliards d'euros, de dollars, hein, des investissements tellement considérables que les gens qui prennent ce genre de décision ne se donnent pas nécessairement une échelle de temps à se dire on va se garder avec cette plateforme technologique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des entreprises qui sont extrêmement sérieuses sur le fait qu'on soit un ordinateur quantique, en particulier les GAFA. Et ça me paraît assez évident que ces entreprises-là seraient capables de pivoter assez rapidement tout de suite ils s'aperçoivent que la voie technologique qu'eux ont portée pendant plusieurs années n'est pas la bonne. Et si ça devient clairement établi sur des critères scientifiques.
Ok. Oui, il faut quand même qu'il y ait des critères scientifiques pour...
Oui, c'est pour ça que je disais que ce sera conditionné à l'atteinte de certaines milestones. Si vraiment quelqu'un demain arrive avec un processeur qui commence à avoir un avantage quantique business... ou à démontrer un processeur qui a des temps de vie beaucoup plus longs, qui arrive à craquer vraiment le vrai problème qu'est la décohérence quantique. Là, je pense que c'est immédiatement, il y a beaucoup d'acteurs qui vont tenter de pivoter sur cette.
Il y a des grosses limites physiques à l'ordinateur quantique ?
Je vois pas de limites fondamentales dans le sens. C'est-à-dire qu'en théorie, on peut construire la machine. Les limites physiques sont vraiment... c'est un problème d'ingénierie extrêmement complexe. Il faut trouver la bonne façon d'encoder le bon support, la bonne façon d'encoder l'information quantique, la bonne façon de la manipuler. Il faut trouver aussi le bon paradigme de calcul. Alors, je pense que c'est déjà très technique. J'ai pas envie de vous casser la tête avec ça. Mais il y a, parce que même au niveau théorique, au niveau algorithmique, il y a différents paradigmes de calcul qui sont équivalents, qui sont tous universels. Et donc, je dirais, sur toutes ces choses-là, il n'y a pas de. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, moi je suis vraiment optimiste, je pense vraiment que dans 30 ans, on aura des ordinateurs quantiques à l'échelle. Enfin, d'ici à 30 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Est-ce que c'est 5 ans comme promettent certains ? Moi, je n'y crois pas. Est-ce que c'est 10 ans peut-être ? Plus de 20 ans, je serais très surpris. Mais en tout cas, il n'y a pas de physique fondamentale. C'est vraiment un problème d'ingénierie extrêmement difficile.
Plutôt que de science, oui. Enfin, en tout cas, on a toutes les fondations.
Plutôt que de science, je dirais effectivement. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un changement de paradigme majeur, c'est-à-dire de la découverte d'une nouvelle phase de la matière, par exemple, où les gens se disent, on n'avait pas du tout vu cet angle, mais en fait, ce truc-là fait un super bon qubit, super simple à scaler, et en 5 ans, le problème est résolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur des approches où on sent bien qu'il va y avoir encore quelques années d'ingénierie, etc. Mais les progrès sont rapides. Les premières machines, en fait, quand on regarde ce qui se faisait il y a 10 ans, ce qui se fait aujourd'hui, c'est juste extraordinaire à quel point le hardware a été développé. Ouais. Donc je dirais qu'il n'y a pas de limite fondamentale ou de limite physique dure. Toute la question et toute la recherche, le sens de la recherche qui est fait aujourd'hui, c'est d'arriver à... Donc la recherche expérimentale cherche à améliorer la qualité de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est les fameux 5 ordres de grandeur d'amélioration dont je parlais un peu plus tôt. La recherche théorique cherche à faire baisser la barre d'exigence entre guillemets. C'est-à-dire que nous, le rôle de l'équipe théorique, c'est de faire en sorte que la machine soit la plus simple à construire. Donc on a une proposition et on continue de l'améliorer en permanence. Alors plus simple à construire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on veut avoir utilisé moins de qubits ou on veut être capable d'utiliser des qubits plus bruités. Et puis le jour où ces deux barres vont se rejoindre, c'est-à-dire où les minimums requis par la recherche théorique seront inférieurs à ce que les gens sont capables de faire dans le laboratoire, on aura l'ordinateur quantique. Aujourd'hui, on est quasiment au point où ça se touche.
T'as combien de personnes dans ton équipe, juste avant ?
Équipe théorique, aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes. Alors, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Il y a 5 postes ouverts. Allez voir sur le site web.
Mais non, mais c'est bien, c'est bien.
En fait, il y a une dizaine de personnes vraiment chez Alice et Bob. Et puis, on collabore de manière extrêmement proche avec l'équipe d'INRIA, l'équipe quantique. C'est une équipe de 25 personnes, dont 15 travaillent plus ou moins directement sur la roadmap d'Alice et Bob. Ce qui est assez logique, hein, parce qu'Alice et Bob est une spin-off des travaux de cette équipe. Donc, ils n'ont pas dit OK, vous avez créé une boîte, on arrête de bosser dessus. Mais du coup, en pratique, c'est pour nous un. C'est plutôt une équipe un groupe de 20-25 personnes qui travaillent directement à l'amélioration de la roadmap sur les qubits de SHA. Et puis, on a à peu près une équipe théorique qui doit faire environ la même taille chez Amazon. Alors, je connais pas exactement leurs effectifs, mais des gens qu'on connaît, ils ont peut-être une vingtaine de théoriciens. Et puis, on a aussi un groupe de théoriciens à Yale. Donc, je dirais, grosso modo, vraiment sur les qubits de chat, on a une communauté facile de 50-60 personnes au monde qui sont vraiment experts de ces systèmes. Et puis, sur les qubits bosoniques, c'est-à-dire les 4 qubits font partie, les cousins, on a une communauté de peut-être 200-300 personnes. La semaine dernière, j'étais à Boulder, en Colorado, où c'était la grande messe mondiale de ce genre de qubits. On était 120 personnes. Ça reste un marché de théorique de niche, et que chez Alice et Bob, on a vraiment une équipe parmi les plus grosses au monde, entre guillemets, sur vraiment la recherche sur les qubits de chat. On fait partie des groupes les plus actifs.
On n'en a pas forcément parlé, mais en termes de besoins énergétiques de ces ordinateurs, est-ce que ça change quelque chose ?
Alors oui, donc tout d'abord, j'ai dit effectivement le vrai marché visé par l'ordinateur quantique, c'est le marché des supercalculateurs. Donc ce qui fait du sens, c'est de dire, voilà, il y a effectivement des gens qui vendent. Bon, il y a l'avantage computationnel, c'est-à-dire est-ce que je peux calculer quelque chose plus rapidement ou calculer quelque chose qui était complètement incalculable ? Et il y a un autre angle qui est de dire, est-ce que je peux résoudre les mêmes problèmes mais plus rapidement ou en consommant moins d'énergie. Aujourd'hui, je crois que les supercalculateurs les plus gros consomment typiquement de 1 à 10 mégawatts. Enfin, des puissances de 1 à 10 mégawatt-heure. Et un ordinateur quantique, par exemple, nous, ce qu'on utilise dans notre laboratoire à Alice et Bob, c'est un frigo, un rack micro-ondes, on est plutôt de l'ordre de quelques dizaines de kilowatts. D'accord. Donc c'est vraiment, il y a trois ordres de grandeur entre les deux. Et c'est vraiment pas la partie quantique qui fait ça. Il me semble. Alors je sais qu'il y a une chercheuse en France qui est à fond sur ces sujets, qui s'appelle Alexia Ofef du CNRS, mmh. qui regarde vraiment l'impact énergétique et qui est cofondatrice de la Quantum Energy Initiative. Donc, il regarde vraiment un peu ces sujets-là. En pratique, enfin, pour répondre à la question de manière simple, c'est la consommation va être complètement négligeable par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les supercalculateurs. C'est essentiellement la consommation vient pour nos systèmes à peu près pour moitié de la capacité calorifique des frigos. Enfin, juste être capable d'extraire toute l'énergie de nos frigos. Et pour l'autre moitié, la consommation électrique du rack micro-ondes qui est là pour contrôler l'ordinateur quantique.
D'accord. Je ne pense pas que c'est pertinent de le comparer à l'ordinateur classique, l'informatique classique, vu que ce ne sont pas les mêmes applications. Mais donc, contrairement à ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut penser, c'est loin d'être un scandale environnemental, à l'échelle en tout cas.
Non, c'est plutôt le contraire.
Plutôt le contraire.
Je dirais que si on arrivait à... La promesse de l'informatique quantique, c'est initialement pas de réduire la consommation énergétique des supercalculateurs. Mais je pense que même si finalement, imaginons un monde où c'est le même paradigme de calcul, mais ça divise par 1000 la consommation, je pense que ça intéresserait énormément de gens. Parce qu'à la fin, la consommation électrique, bon, il y a évidemment tous les enjeux énergétiques, puis c'est aussi des enjeux économiques. Hein, c'est-à-dire financer ce genre de calculateur, ça coûte assez cher. Mais moi, je suis pas non plus 100% convaincu par cet argument. Enfin, il a clairement son importance. En réalité, la différence de scaling pour certains algorithmes, c'est-à-dire les vraies applications, je pense, viendront de ces problèmes pour lesquels on a un speed-up exponentiel. Mm-hmm. Et donc, pour moi, le vrai intérêt, c'est pas tellement de pouvoir résoudre le même problème avec moins d'énergie. C'est surtout de pouvoir, quitte à consommer autant, mais à résoudre des problèmes qui sont complètement inaccessibles et qui ont complètement disrupté la
technologie. On va sans doute moins consommer de manière indirecte par l'utilisation de l'ordinateur quantique, parce qu'en fait l'ordinateur quantique va nous permettre de faire des calculs plus rapides, du coup on va utiliser moins d'énergie pour faire des calculs et en plus on fera des calculs plus pertinents par exemple sous l'utilisation des data centers. Donc peut-être que l'ordinateur quantique consommera plus que consommera l'énergie qu'on n'aurait pas consommé si on l'avait pas, mais peut-être qu'on en consommera moins à côté sur la gestion des data centers. Donc de manière globale, en fait il faut regarder de manière globale ce sujet-ci.
Oui, ce qui n'est pas si évident à quantifier. Un autre exemple, par exemple, récemment, j'ai travaillé sur l'application du calcul quantique à la simulation de fluides aérodynamiques. Mmh. Et un cas d'usage qui est intéressant, c'est le cas de la Formule 1. En fait, en Formule 1, pour des raisons budgétaires, environnementales, il y a un nouveau règlement qui va arriver qui va réduire l'utilisation du temps de soufflerie. Donc aujourd'hui, en fait, c'est tellement difficile de simuler des flots aérodynamiques qu'il y a évidemment une partie design et simulation numérique, mais encore une fois avec des modèles simplifiés de l'écoulement de l'air. Et puis ensuite, les ingénieurs F1 construisent un véhicule et puis mettent ça dans une soufflerie et vraiment ils regardent comment l'air se comporte. Et donc là, on regardait un peu avec le calcul quantique, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, c'est pas un cas d'usage qui est résolu, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une partie du calcul qui pourrait être accélérée avec un ordinateur quantique. Ouais. Mais il y a un problème, en fait, c'est un algorithme qui donne la solution sous forme quantique. Et c'est pas clair comment récupérer le résultat de cette solution. Mais là, clairement, la vision, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le développement des médicaments. Ce serait, in fine, si on avait des méthodes quantiques qui permettent de simuler directement les choses, et bon, on pourrait carrément remplacer des méthodes expérimentales ou des méthodes de soufflerie qui, elles, consomment énormément d'énergie et coûtent énormément d'argent.
Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs quantiques dans tous les modèles ou pas ? Souvent, on entend parler des erreurs quantiques et on dit qu'il faut corriger ces erreurs-ci. Ouais. Pour arriver à avoir un résultat qui est pertinent, utilisable, etc. Est-ce que toutes les technologies qui sont utilisées ont des erreurs quantiques ou il y en a qui en ont beaucoup, beaucoup moins ?
Oui, bah c'est exactement la question dont on a discuté tout à l'heure sous une autre forme, la question de la stabilité des qubits. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on présente ça sous forme de temps de cohérence, temps de vie de l'information
quantique. C'est la même chose, finalement.
C'est exactement la même chose.
Okay.
C'est-à-dire les erreurs quantiques dont là on parle. C'est simplement le fait que l'information quantique, idéalement, si on avait un qubit parfait, le seul changement d'état quantique viendrait de l'algorithme qu'on est en train de jouer. Donc la seule chose qui ferait que le qubit change d'état, c'est vraiment le fait que moi, je suis en train de venir jouer un algorithme. Hein. Et en pratique, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il peut se passer qu'un qubit, à un certain moment, a un photon dans son circuit. Et il est censé rester en cet état, et puis ce photon part dans l'environnement, et donc là on dit que c'est une erreur. Une erreur est arrivée. Okay. Et le problème, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, donc j'en parlais tout à l'heure, on a les erreurs qui arrivent une fois sur mille. Et moi, quand je viens exécuter 100 millions de milliards de portes, et ben à la fin de l'algorithme, j'ai le résultat de l'algorithme, mais il y a tellement d'erreurs qui se sont glissées dessus qu'en fait, l'algorithme que j'ai joué, c'est un autre algorithme, c'est l'algorithme qui comporte toutes les évolutions. Dont je voulais pas, et ce qui fait que le résultat est...
Et t'arrives à voir, justement, toutes les erreurs. Dès qu'il y a une erreur, tu t'arrives à la voir à la fin, ou des fois, il y a des erreurs que tu vois pas ?
Ah, justement, on est incapable de dire à la fin... Parce que si à la fin, on avait le résultat de l'algorithme et qu'on savait dire quelles sont les erreurs, bon, pour les enlever et avoir le résultat de l'algorithme, le problème, c'est que les erreurs sont complètement indistinguables de l'algorithme lui-même, de la transformation de l'état liée à l'algorithme. Donc moi, la seule chose que j'ai à la fin, c'est un état quantique... Et qui ne correspond pas à la solution de mon problème. Donc je peux essayer de recommencer l'algorithme, mais en fait il y a tellement d'erreurs que j'aurais beau essayer des millions de fois, je n'arriverai jamais à la fin à avoir fini mon algorithme et à ce que le résultat de l'ordinateur soit vraiment le résultat du problème. La seule manière d'y arriver, c'est de réduire ces erreurs, de les enlever, de les corriger.
Okay. Pour revenir un petit peu en amont de ce que tu disais, on parlait tout à l'heure de sécurité nationale, etc. Est-ce que avec l'ordinateur quantique, je pourrais craquer n'importe quelle blockchain et modifier l'info qui est sur une blockchain, que tout le système crypto il tomberait à l'eau, etc. ou pas ?
Alors pourquoi est-ce que tu poses cette question ? Ça t'intéresse ?
Non, exactement, ça m'intéresse. Je veux devenir un dangereux pirate.
On
non,
est mais en que plus, c'est un exercice purement théorique. Alors, oui, je suis pas expert de tous les systèmes crypto. Je sais qu'on peut attaquer, par exemple, la crypto sur courbe elliptique. Donc la crypto sur courbe elliptique, c'est.
Parce que je pose cette question parce que non, c'est quand même le secteur en sécurité qu'on dit le plus sûr. Ou en tout cas qui est le moins falsifiable, et pour autant finalement c'est qu'un algorithme.
Oui, ce qu'on peut attaquer dans le cas de la blockchain, en fait, c'est l'algorithme de signature.
Ouais.
C'est-à-dire que quand on achète du Bitcoin, quelque part dans la blockchain, il y a écrit qu'il y a une transaction qui est précise, etc. Et cet algorithme de signature repose sur la crypto sur courbe elliptique qui peut être attaqué avec l'algorithme de Shor. Donc ça, c'est vraiment, d'ailleurs, chez Alice Evom, on a fait un exercice théorique assez récemment où on a pris, on a regardé vraiment l'algorithme de Shor à l'échelle qui permet de résoudre ce genre de casser ce genre de système. Et puis, on l'a compilé sur notre architecture. Donc, compilé, c'est vraiment, on est parti d'une description de l'algorithme un peu mathématique et puis on l'a écrit sous la forme des portes qui sont natives sur notre hardware. On a dessiné une puce qui a vraiment les caractéristiques physiques de la puce qu'on aura, c'est-à-dire c'est une puce qui est en 2D, où les qubits sont imparfaits, on a modélisé les erreurs avec nos temps de vie, etc. On a mis des hypothèses, et ensuite on a vraiment exécuté l'algorithme de manière théorique sur cette puce. Et ce qui nous intéressait, c'était de savoir, en fonction de la taille de la clé qui est utilisée pour signer la transaction, combien de temps et combien de qubits, et quelle qualité de qubits ça prendrait pour attaquer ça. Et on a trouvé que si on veut attaquer le la taille typique de la clé qui est utilisée dans la signature du Bitcoin, qui est 256 bits, il nous faudrait 126 000 qubits de SHA et qu'on pourrait faire ça en 8 heures ou 9 heures. Okay. Donc pour répondre à ta question, certains systèmes crypto sont vulnérables. Le protocole de signature des Bitcoins est un des plus vulnérables, en fait. La raison pour laquelle c'est un des plus vulnérables et la crypto sur courbe elliptique en général, c'est que les algorithmes classiques ont beaucoup de mal à attaquer ces systèmes. Il n'y a pas, par rapport à d'autres systèmes. Alors, tous les systèmes sont très durs à attaquer, mais il y en a certains qui sont plus durs que d'autres. Et donc, ceux qui sont plus faciles à attaquer, on va utiliser des clés plus grandes. Okay. Par exemple, pour RSA, la sécurité Internet, c'est des clés de 2048 bits, alors que le signature Bitcoin, c'est que 256 bits. Et pour un ordinateur quantique, ça ne fait pas de différence. En fait, il arrive à attaquer l'un ou l'autre avec la même facilité. Donc, si la clé elle est plus petite, eh ben, c'est plus facile à attaquer. C'est aussi bête que ça.
On parle donc de craquer de l'algorithmie classique avec du quantique. Est-ce qu'il y a aussi déjà des gens qui travaillent sur la sécurité des algorithmes quantiques eux-mêmes? Ou c'est vraiment pas une priorité
Alors, la sécurité des algorithmes quantiques eux-mêmes... Donc c'est un peu ce qu'on discutait tout à l'heure. Il y a des gens qui travaillent pour construire des systèmes crypto qui sont quantiques quelque part, où tout ou partie du protocole nécessite vraiment l'utilisation d'une plateforme quantique. Donc ça, oui, il y a des gens qui travaillent dessus. Bah, c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec la QKD, la distribution de clés quantiques. Maintenant, sur la sécurité des algorithmes eux-mêmes, si ce que tu entends, c'est par exemple, bah, moi, je veux... je suis en train de concevoir une molécule et imaginons que ce soit un monde où je fais 100% confiance à mon ordinateur quantique, c'est-à-dire que si mon ordinateur quantique me dit que ça c'est la bonne molécule, je vais la fabriquer, je vais faire un médicament et je vais l'envoyer au grand public sans aucune autre forme de vérification. Imaginons ça. Et donc là, la question, c'est pas vraiment la sécurité de l'algorithme, c'est plus la vérification de l'algorithme. Et là, il y a effectivement... Donc ça, c'est la vérification des algorithmes, la certification des algorithmes, les preuves mathématiques formelles qu'un algorithme fasse exactement ce qu'il est censé faire. Ça, c'est un champ de recherche qui existait déjà en algorithmie classique. Il y a des équipes spécialisées là-dedans. C'est par exemple utilisé dans les systèmes critiques. Si vous êtes en train de concevoir un algorithme qui fait du pilote automatique pour les avions, vous avez besoin un peu d'être sûr que l'algorithme soit extrêmement robuste. Et il y a effectivement des gens qui travaillent là-dessus, sur tout ce qui est vérification, preuve formelle des algorithmes. Et d'ailleurs, encore une fois, à INRIA, par exemple, à Saclay, il y a des équipes, l'équipe Quax et d'autres équipes qui sont spécialisées, qui sont extrêmement fortes pour faire ce genre de choses.
Et pour terminer sur les questions de sécurité, enfin, en tout cas pour continuer sur les questions de sécurité, j'ai déjà entendu parler d'histoires d'espionnage industriel. En quoi ça vient s'immiscer dans l'informatique quantique? Qu'est-ce que ça permettrait de faire?
C'est tout bête, hein. C'est que... c'est extrêmement dur de construire du hardware quantique. Si demain Alice et Bob publient des résultats qui montrent qu'on a des puces qui excèdent de très loin la performance de nos concurrents, on aura du monde à la porte juste pour piquer les plans de la puce. Hein.
Pour comprendre comment on fait, de souveraineté technologique. Ouais. Okay.
C'est une course à l'espace. Mais comme ça existe dans tous les domaines hautement stratégiques, hein, j'avais vu il y a quelques mois le fait que pour l'industrie des semi-conducteurs, apparemment, il y a une étape de fabrication qui nécessite une machine que extrêmement peu de gens au monde savent construire. Et je crois que c'est une boîte néerlandaise, ouais. Exactement, qui construit cette machine et du coup contrôle un marché de plusieurs milliards, ce qu'ils la vendent. Et ça a fuité qu'apparemment un employé avait réussi à exfiltrer les plans qui ont été récupérés par la Chine, etc. Avec des enjeux industriels monstrueux. Nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à construire la machine, mais quand bien même on l'aurait construite, que les qubits de SHA seraient devenus le standard. Pendant encore de nombreuses années, ben Alice et Bob auraient accumulé de l'IP, du savoir-faire qui nous permettrait d'être peut-être en position de monopole ou parmi les seules personnes au monde qui savent construire ces systèmes. Et les gens qui voudraient recommencer de zéro auraient de facto des années, voire des décennies de retard. Et donc, ben, y a des enjeux autour de du savoir-faire et de la compréhension de comment construire ces machines-là. Quoi.
Vous êtes accompagné là-dessus, du coup, un petit peu ou pas?
Oui, on est effectivement très bien. Enfin, c'est un sujet extrêmement important. Ouais, on ne peut pas se permettre de juste investir autant dans le développement de cette technologie sans s'assurer qu'elle soit protégée. Et la protection prend toutes les formes qu'on peut imaginer, contre l'espionnage, mais aussi juste la protection sous forme d'IP.
Pour arriver sur la fin de cet épisode, est-ce qu'il y a des sujets pour la vie privée et la sécurité des données, ou finalement pas tant que ça sur la physique quantique? Comme ça, j'aurais l'impression, j'aurais envie de dire non, tu vois. J'aurais envie de dire que finalement, c'est pas un sujet et que c'est plutôt un sujet pour ceux qui collectent la data. Mais,
Oui, c'est pas évident. Bon, il y a évidemment tous les enjeux crypto dont on a parlé en long, en large, en travers. C'est-à-dire que bah, la sécurité d'Internet ou des transactions bancaires, ça va directement impacter. Enfin, je veux dire, c'est pas que la sécurité des gouvernements, etc. Ça peut directement impacter vraiment le grand public. Après, autour des enjeux de sécurité plus larges que ça, c'est hautement spéculatif. C'est-à-dire que, bon, par exemple, la sécurité, aujourd'hui, comment sont utilisées les données? C'est à travers des méthodes de machine learning, etc., qui vont permettre, par exemple, de faire des pubs extrêmement ciblées. Et puis, on se demande où s'arrête la limite entre qu'est-ce qui doit être vraiment vos données personnelles. Et là, si on veut faire un peu un stretch, bon, on peut dire que oui, l'informatique quantique va aussi permettre d'améliorer toutes ces méthodes-là, que ce soit du machine learning. Et donc, très indirectement, mais enfin, si vous voyez, c'est vraiment très indirectement poser de nouveaux problèmes. Parce que si les données sont exploitées de manière encore meilleure ou envisager de nouvelles applications, ça pourrait créer des nouveaux sujets. Mais honnêtement, je suis pas vraiment convaincu par cet argument que je viens de donner. Parce que pour moi, le sujet, c'est pas vraiment le développement des méthodes scientifiques en tant qu'elles-mêmes. Ça a toujours été l'utilisation qu'on en fait. On dit souvent, hein, fabrique un glaive quelque part. Enfin, si on pense à toutes ces choses-là, c'est pas vraiment le glaive qui est dangereux, c'est plutôt l'intention derrière.
Ouais. Tu nous l'as répété à plusieurs reprises, c'est une boîte hardware. Vous faites un ordinateur. Est-ce qu'il y a des minerais rares dans cet ordinateur? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, c'est compliqué de...
Bon, honnêtement, moi je suis théoricien, j'ai un peu de mal à répondre à la question. Alors, il y a effectivement un sujet autour du fait déjà du coût par qubit, enfin le fait que... par exemple, si vous venez voir l'intérieur de nos frigos, ils sont recouverts d'or, c'est magnifique. Alors, c'est pas parce qu'on est bling bling.
Il y a de très belles photos sur Internet.
C'est pour ses propriétés thermiques, ce genre de choses. Donc, c'est pas vraiment des matériaux rares, mais on utilise beaucoup de matériaux qui sont coûteux. Nos puces sont en saphir, même le tantal, etc. Je dirais, peut-être dans le cas des circuits supraconducteurs, il y a un sujet autour de l'hélium-3. Donc, si vous voulez faire un frigo qui descend à jusqu'à 4 Kelvin ou 1 Kelvin, il vous suffit d'avoir un frigo hélium-4. Hélium-4, c'est ce qu'on achète au magasin Farce et Attrape, là, ça coûte rien, il y en a plein. L'hélium-3, c'est un isotope rare. Et pour les machines qui descendent à 10 000 Kelvin, on a besoin, à la fin, on a un mélange entre hélium-3 et hélium-4. L'hélium-3, il est issu de, il me semble que la plus grosse source de produits, donc c'est pas un isotope qui est disponible naturellement. Et la plus grosse source d'approvisionnement, c'est l'entretien des arsenaux nucléaires. Donc les pays qui ont des gros arsenaux nucléaires, comme la Russie ou les États-Unis, ont énormément d'hélium-3. Donc nous, aujourd'hui, on peut encore l'acheter sur le marché, mais c'est quelque chose qui est extrêmement cher. Ça a été identifié comme une ressource un peu critique pour l'informatique quantique des circuits supra. Donc si demain, la plupart des pays décident de restreindre l'accès à ces choses-là, ça pourrait poser un problème pour l'industrialisation de la technologie. Aujourd'hui, on en est très loin, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça reste encore, mine de rien, des prototypes. Hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait chez Alice et Bob, c'est pas encore la construction d'ordinateurs à l'échelle qui nécessite des quantités faramineuses. Donc même si les matériaux coûtent cher, etc., on arrive à en trouver encore relativement facilement. Mais dans un futur plus ou moins proche, ça pourrait le devenir. Pour les autres plateformes technologiques, honnêtement, je ne sais pas vraiment s'ils ont ce genre de sujet.
On approche doucement de la fin de l'épisode, je pense. J'étais curieux de savoir, justement, ça fait a priori un bon moment que tu travailles dans le quantique. C'est quoi qui t'enthousiasme le plus, justement, avec cette innovation? Est-ce qu'il y a une application? Est-ce qu'il y a quelque chose qui au quotidien, te drive plus?
Plus qu'une application, c'est vraiment le sentiment d'être dans une course scientifique extraordinaire. La mentalité de beaucoup chez Alice et Bob, c'est qu'on est quand même un commando de physiciens en train d'essayer de résoudre un défi technologique extraordinaire. Et qu'on fait ça avec une petite équipe et relativement peu de moyens contre des géants de l'industrie, et que pourtant on arrive à se faire notre place dans le jeu international. C'est-à-dire que pour le moment, on est vraiment pas ridicule. Et ça, pour un jeune physicien, enfin un jeune scientifique, c'est vraiment extraordinaire. Alors évidemment, on fait le pari que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura énormément d'applications extraordinaires qui vont avoir énormément d'impact dans la société, mais c'est moi pour être tout à fait. Enfin, ce serait mentir que de dire que je me lève le matin pour ça. Moi, c'est vraiment le côté scientifique de dire on veut résoudre ce problème, on veut construire la machine. Et évidemment, les milestones, enfin les réussites que voit le grand public sont des gros titres, mais nous, au quotidien, tous les 6 mois, on avance, on construit des choses qu'on n'arrivait pas à faire, on construit cette roadmap. Et ça, ça donne vraiment de l'adrénaline, quoi. Quand on arrive vraiment à voir le hardware qui fonctionne la première fois, et puis qu'on passe sur des processeurs de plus en plus compliqués, etc., de voir aussi tout ce qu'on construit avec l'entreprise. Moi, c'est vraiment ça qui me motive au jour le jour.
Est-ce que vous avez des difficultés justement à trouver ces talents, en tout cas vraiment ces talents théoriques qui sont vraiment spécialistes ou
Oui, je dirais, enfin pas que les théoriciens, les expérimentateurs. Enfin, c'est un domaine qui a connu un essor énorme ces 10 dernières années et particulièrement ces 5 dernières années avec la création de beaucoup de boîtes, avec les grosses boîtes qui recrutent aussi énormément. Le domaine a grossi beaucoup plus vite que la formation des talents dans le domaine. C'est-à-dire que pour être pertinent, il faut minimum bac plus 8. Et même souvent, dans nous, nos boîtes, on recrute que des gens qui sont vraiment dans le haut du panier, donc qui sont passés par les meilleures universités. Et ça, c'est un vivier de gens qui est extrêmement restreint, qui ont tous 5 offres d'emploi sur la table, avec des salaires énormes aux États-Unis, etc. Donc le recrutement est extrêmement difficile. Moi, j'ai dans mon équipe des postes qui sont ouverts depuis plus d'un an, un an et demi. Où j'ai eu des grosses touches avec vraiment des stars internationales, mais qui sont très très dures à attirer. Et c'est vraiment pas qu'une question de salaire. C'est pour ça que je disais, voilà, c'est important de publier. Mmh. Enfin, c'est un tout, c'est un package. On se doit d'être qui recherche l'excellence scientifique avant tout, parce que de toute façon, ils sont très bien payés partout où ils vont dans le domaine. Donc oui, le recrutement est clairement extrêmement difficile. Nous-mêmes, on est extrêmement attentifs à l'équipe qu'on monte. On veut aussi des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Et ce qui fait que c'est aujourd'hui le frein principal à la croissance de l'équipe, hein. C'est vraiment le fait que les talents sont rares et recrutés au compte-gouttes.
Avant de passer au crible de la conclusion, t'as droit à une comment j'avais formulé ça, sur le dernier épisode qu'on a tourné ici aujourd'hui chez Orso Media, j'avais trouvé une formation pas mal, mais à une carte blanche. T'as droit à une carte blanche, parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que t'aimerais bien aborder.
Ou compléter, même.
Sur ce sujet ou un autre, hein, profiter du fait que t'as un micro et que t'es diffusé auprès d'une très très large audience.
Non, là comme ça, j'ai rien qui me vient à la tête. On a quand même discuté de beaucoup de sujets. Hein.
Ouais. Est-ce qu'il y a des grandes questions, pareil, autre question très compliquée, hein, mais est-ce qu'il y a des grandes questions sociales, philosophiques, scientifiques, technologiques que tu te poses ou pas tant que ça finalement?
Liées au domaine?
Pas forcément, au domaine ou pas? Ouais. Je sais pas, par exemple, tu vois, mardi, on passe un épisode avec Séraphie de Tracy qui se pose des questions en coupant ses légumes le soir quand elle fait à manger, tu vois.
Moi, je me pose souvent des questions philosophiques, ouais, sur ça vous paraît bizarre, hein, et ça me vient souvent à l'apéro aussi, hein, une fois que j'ai consommé quelques substances, mais sur d'où vient finalement l'énergie. En fait, en tant que, grosso modo, je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, mais pour moi, c'est pas vraiment la fin du sujet. Je me pose quand même plein de questions par rapport à, par exemple, le fait qu'on puisse pas créer de l'énergie. On dit, voilà, rien de secret. Tout se transforme, etc. Pourtant, on a de l'énergie qui est là. Je me demande vraiment d'où elle vient. Et aussi, je serais extrêmement curieux de comprendre qu'est-ce que le Big Bang et puis qu'est-ce qu'il y avait avant. Parce que même si on ne croit pas en Dieu, vu de loin, ça ressemble vraiment à une intervention divine. Donc voilà, moi, c'est un peu... J'ai vraiment l'angle scientifique de
l'approche à ce sujet. C'est un peu la réponse à la vie, là, pour le coup.
Oui, mais c'est des choses... Ouais. C'est des choses qui... c'est des questions qui me reviennent régulièrement. Alors, pas tous les soirs en m'endormant, mais c'est un peu... Et voilà, et si, pour boucler avec le sujet, si des technologies comme l'ordinateur quantique... disons que moi, l'application qui m'excite le plus, c'est vraiment les applications scientifiques. C'est vraiment la face... c'est John Preskill, un grand physicien américain, qui l'avait dit comme ça, qui avait fait une tribune pour dire, bon, voilà, là, on s'excite sur les algos, les applications business, etc. Mais c'est avant tout ce qu'on essaie de faire, de construire une nouvelle machine qui va permettre d'étudier les phases exotiques de la matière. Enfin, vraiment nous donner accès à un système quantique d'une taille... qu'on n'avait jamais eu, et ça va forcément nous aider dans notre compréhension de choses extrêmement philosophiques. Donc c'est peut-être ça qui me motive le plus à la fin de la journée.
Je pense que c'est un peu une marche pour un nouveau balai de découvertes scientifiques. On peut espérer en tout cas.
Comment tu fais pour continuer à t'informer sur le quantique et sur d'autres? On a vu que tu étais quand même hyper bien entouré avec l'INRIA et d'autres acteurs. Est-ce que tu lis des ressources? Est-ce que...
Oui, bah moi je suis quand même dans un poste de recherche scientifique ou de direction de recherche scientifique. Donc ma source principale d'information, c'est la littérature scientifique. Donc on a l'archive, une archive ouverte que je consulte tous les matins. Avant, tous les articles du domaine sont publiés. Alors je regarde juste les titres, les abstracts. Et puis comme on connaît bien les gens qui sont pertinents, on ne lit que ceux qui nous intéressent. Donc ça, c'est, au quotidien, c'est vraiment la source principale d'informations. On a par exemple dans l'équipe de RIC un journal de lecture une semaine sur deux, on sélectionne un article pertinent, récent du domaine, on l'étudie tous ensemble. Ensuite, il y a évidemment, c'est la vie d'un scientifique, hein, c'est-à-dire toutes les conférences scientifiques où c'est une manière un peu plus formelle de s'informer des résultats parce que chacun vient présenter ce qu'il fait. Et puis surtout, on se tisse un réseau dans la communauté académique et puis dans mon cas aussi, dans une moindre mesure, dans le toute la partie, l'écosystème industriel, avec des gens avec qui on discute extrêmement régulièrement. Et en fait, c'est un peu un jeu, une tension entre être en compétition et être collaborateur. Quand on est dans les conférences scientifiques, on n'hésite pas quand même à discuter un peu ensemble, à partager les idées, et on voit les domaines avec des idées à la mode sur lesquelles tout le monde travaille. Et c'est important quand même d'arriver à collaborer, parce qu'on a un groupe scientifique qui essaie de faire monter le domaine et où chacun essaie d'avoir un peu son angle. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'informe et qu'on bosse dans le domaine.
Et est-ce que, parce qu'on on est quand même passé sur plein de sujets, mais un peu vite, est-ce que tu as quelques ressources pour les gens qui aimeraient creuser ces thématiques de quantique, peut-être sans forcément avoir un background de recherche, des choses où ils puissent quand même aller vraiment s'informer encore plus?
Les gens qui ont survécu là jusqu'à la fin de ce podcast sont quand même des gens très intéressés, donc j'imagine un peu éduqués sur le sujet. Il y a Olivier Ezrati, je sais pas si vous connaissez, qui est un, alors je vais pas dire influenceur parce que s'il m'écoute il va être furieux, mais qui est en tout cas une personnalité du quantique français, qui est extrêmement bien informée et qui publie chaque année un ouvrage, Comprendre les technologies quantiques, qui est en fait une espèce de catalogue extrêmement exhaustif du domaine qui doit faire 1000 pages ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça fait un super travail de compilation de tout ce qui se fait, et pas seulement sur les aspects scientifiques. C'est-à-dire qu'il va vous donner aussi toutes les boîtes du domaine, comment ça évolue. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je crois que c'est en français en plus. Et puis ensuite, si on est quelqu'un qui serait vraiment intéressé par le calcul quantique, c'est-à-dire aller au-delà de bon, ok, c'est un état de superposition, mais qui va vraiment mettre les mains dans le cambouis, il y a le bouquin de Michael Nielsen et Isaac Chung qui s'appelle Quantum Computation and Quantum Information, qui est la bible du domaine. C'est-à-dire que tous les étudiants qui démarrent une thèse en informatique quantique, donc qui sont niveau sortie d'école d'ingénieur, commencent par ça. Alors il faut quand même avoir c'est pas pour des lycéens par exemple, faut avoir des connaissances mathématiques élémentaires, mais ça permet vraiment, tout ça traite beaucoup de sujets, de la correction d'erreurs aux algorithmes, etc. C'est vraiment très bien fait, ça se lit bien, et c'est extrêmement pointu. C'est à la fois facile d'accès, mais ça donne vraiment une très très bonne vision de ce qui se fait.
Eh ben merci beaucoup, toutes ces ressources en description de l'épisode. Est-ce qu'il y a des sujets sociétaux que tu trouves pas assez abordés? Par exemple, moi je trouvais que le quantique c'était pas assez abordé. J'ai découvert ce secteur il y a pas si longtemps que ça. J'ai pas fait d'école d'ingé, du coup on en a pas parlé à l'école. J'ai découvert ça il y a 2 ans. Quand j'ai commencé à vouloir m'informer, je suis tombé justement sur des vidéos de membres d'Alice et Bob sur YouTube, etc. C'est comme ça que j'ai découvert la boîte. C'est la première boîte de quantique que j'ai découvert. Mais je trouve toujours que pour des non-initiés, c'est compliqué de s'informer. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça où tu trouves qu'il manque de connaissances, de savoir, libre accès, ou pas forcément?
Bon, sur l'informatique quantique en particulier, moi je baigne dedans depuis plusieurs années, donc je suis extrêmement sensibilisé, donc j'ai un peu du mal à palper comment le grand public perçoit ce domaine ou les ressources, etc. Donc c'est un peu dur de répondre. Je pense que plutôt sur d'autres sujets.
Ouais, plutôt sur d'autres sujets, des trucs où toi t'aurais bien aimé tomber sur des ressources.
Non, j'ai pas un combat personnel fort que je voudrais pousser à l'instant, donc je vais répondre non. Mais je veux quand même dire, pour terminer là sur l'informatique quantique, en fait il y a quand même énormément de hype dans notre domaine, hein, d'articles grand public extrêmement, j'irais presque mensonger, hein, sur l'arrivée réelle de la technologie. C'est-à-dire moi quand j'ai commencé ma thèse en informatique quantique, dans les premières semaines, je pensais que l'ordinateur quantique était déjà là. Okay. Et en discutant avec mon directeur de thèse, je lui ai dit, mais quand j'ai compris que l'équipe était en train de concevoir des qubits, je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Google a déjà un ordinateur quantique, je l'ai lu dans les news.
Ah ouais, d'accord.
Et il a éclaté de rire en disant, bah non, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà, moi je dirais, il faut vraiment se méfier, il faut laisser aussi le temps au domaine de construire l'informatique. Et prendre un peu avec des pincettes. Enfin, tous les gens qui sont un minimum intéressés au domaine, très vite, entendent ce genre de message. Mais là, j'en profite s'il y a des gens qui en entendent pour parler aujourd'hui pour la première fois, que voilà, c'est un domaine complexe qui est en cours de développement et il faut se méfier en général. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est quasiment tout le temps que c'est trop beau pour être vrai dans le domaine.
C'est un très très beau mot de la fin. Écoute, merci beaucoup, Jérémy, pour ton temps et pour cette discussion. Merci à Arso Media de nous dépanner ces studios occasionnellement. Et à très vite.
Au revoir. Merci, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.